Eh bien, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, samedi, comme d'habitude, 14h, 16h, eh bien, c'est notre émission sur la micro-informatique, les dépannages en tout genre, les petits trucs, les petites astuces, les commentaires, tout ce qui concerne la micro-informatique et surtout votre micro-ordinateur. Alors, deux possibilités. Vous avez une question à poser. Vous la posez sur notre standard au 08 92 23 95 20 ou tout simplement sur le chat sur notre site ici-et-maintenant.com. Et là, dans la rubrique du chatroom, vous pouvez poser une question ou tout simplement répondre également à ceux qui, comme d'habitude, sont des fidèles du chat et vous répondront et peut-être répondront à vos questions ou poseront un complément d'information à une question ou à une réponse que vous avez. Alors aujourd'hui, grande première, nous avons Elira qui va passer un petit moment avec nous en ligne. Bonjour Elira.
Bonjour à tous, bonjour Richard.
Bonjour, tu vas bien?
Ouais, ça va, bon. On a le beau temps, mais bon, vaut mieux rester devant les machines.
Oui, un petit peu de chaleur devant la machine, ça fait du bien. Hein.
Ouais. Voilà. Pour la technique, ce serait possible de monter un poil de son?
Alors, pour la technique, monter un petit poil le son parce que tu entends un petit peu mal.
Je crois que ça dépend pas de nous, en fait.
Ben, moi, de mon côté, je suis à fond, je peux régler le volume, mais là, je suis à fond.
Et, oui, et tu entends un petit peu mal. Alors, on va demander à Didier s'il y a une possibilité de monter le son pour la ligne téléphonique, puisque sinon tu entends mal. Mais pour nous, ça va très bien. On te reçoit 5/5, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, on peut dire quand même que pour les auditeurs qui nous écoutent, que tu es un petit peu un spécialiste Linux, bien sûr.
Hein. Ouais. On peut dire ça. Mais,
on peut dire ça. On peut dire ça.
Utilisateur, on va dire avancé.
Voilà. Que tu fais partie d'un groupe d'utilisateurs de Linux.
Oui, c'est Alpinux.
Voilà, Alpinux. Hein, je te laisse dire. Et donc de la région savoyarde, bien sûr. Et que donc votre but est de propager la culture Linux, si je puis le dire, sur les ordinateurs de la région et de faire profiter tous ceux qui ne connaissent pas encore Linux ou qui seraient tentés, eh bien, de vous rejoindre pour justement progresser et comprendre et mieux comprendre et mieux savoir utiliser Linux. C'est bien ça.
Ah, c'est exactement ça.
Bon, alors je t'ai fait un peu de pub là. Hein.
Exactement ça. Mais c'est de la pub. À mon avis, c'est pour tous les Linux.
Tout à fait. Oui.
Tous les Linux qui fonctionnent comme ça. Hein.
Bien sûr, parce que effectivement, tu peux nous expliquer qu'il y a un petit peu de Linux un peu partout en France.
Ah oui, c'est même nous dans notre région, il y en a d'autres qui sont juste à côté, dans la Maurienne, par exemple.
Oui.
Il y en a aussi, il y a le Salug.
Oui.
Qui est du côté d'Annecy.
D'accord.
Donc, c'est vraiment très local, quoi.
Oui, ce sont des petits groupes qui se forment un petit peu dans des localités un petit peu importantes où, justement, vous pouvez, progresser dans l'établissement d'un groupe d'utilisateurs Linux.
Oui, mais hein. Ça permet aussi aux gens de venir directement avec leur machine sous le bras.
Oui.
Pour qu'on leur installe Linux en les guidant.
Oui.
Et on leur fait découvrir le système et les logiciels libres.
D'accord.
C'est aussi ce but-là, quoi. On peut nous, par exemple, on fonctionne deux fois par mois, on a une réunion.
Oui.
Et on suit un ordre du jour. Mais souvent, à la fin, on fait des installs.
D'accord. Pour les ceux qui viennent et qui voudraient justement installer leur machine. Alors, on est parti sur un petit peu de Linux, on va continuer quand même sur Linux, pour dire que malgré tout, ça n'est pas quand même très compliqué de monter un ordinateur avec une distribution Linux suivant la distribution que l'on prend. C'est un peu ça.
Oui, par exemple, la Mandrake, elle est vraiment très simple à installer. Hein.
Voilà.
Même si on a un système déjà en place,
oui,
et qu'on veut repartitionner, ça se fait très facilement avec la Mandrake.
D'accord. Donc, ça permet d'avoir quand même son ancien système qui fonctionne bien, son Windows,
et puis également de pouvoir installer un Linux à côté.
Oui, puisqu'il y a le double boot.
D'accord. Alors Elira, on a Jacques, un auditeur qui nous attend. Donc on si tu veux bien, tu nous écoutes et puis on repart après sur Linux. On va donc accueillir Jacques à l'antenne.
OK. Bonjour Richard.
Bonjour Jacques.
Je t'ai déjà appelé la semaine prochaine parce que mon problème est toujours
pas résolu. La semaine
dernière
peut-être.
Bon, tout d'abord, je voudrais faire une petite mise au point qui peut être utile à tout le monde.
Oui.
Lorsque j'ai appelé là à 2h, je suis tombé sur un monsieur qui m'a dit « Tu es Jacques et on ne veut pas de toi et on m'a raccroché au nez. »
Oui.
Alors j'ai refait le numéro, on m'a présenté des excuses, je ne demandais pas de temps. Il semblerait que sur la station, il y ait un Jacques qui soit un perturbateur quelconque,
oui.
Ou un monsieur malpoli, ou j'ignore.
Oui.
Et il faudrait peut-être pas confondre tous les Jacques. Moi, je suis en fait 73 ans, je respecte la station, je l'écoute souvent. Et donc, faut pas suivre. Le monsieur à qui j'ai eu affaire m'a dit, c'est pas la peine d'insister, j'ai reconnu ta voix. Alors, ça m'a beaucoup surpris.
D'accord.
Bon, on va passer à mon problème. J'en
alors,
ai parlé il y a
problème,
une heure.
Oui.
Et il s'étend, ce problème.
Alors, bon, c'est sur quoi?
Alors, je suis sur un PC, disons, fait par un informaticien de quartier.
Oui.
Qui est bien solide et bien stable, avec un AMD, comment qu'on appelle ça, XP 2200 plus, Windows 98 SE et un graveur lecteur de CD qui est un Polaroid et qui fonctionne très bien.
Oui.
Bon, jusque-là, pas de problème. Il y a 10 jours, je fais installer par ce même informaticien, en plus, un graveur Lite-On, on
oui,
va dire.
Oui,
bon.
Oui.
Un graveur lecteur de DVD, et je me trouve avec Nero 6, que je mets à jour, la dernière version 6.06, je sais plus combien.
Oui.
Bon, et je mets un DVD moins RW dedans, tout neuf. Et à ma surprise, ça me le reconnaît. Donc moi, je me sers pas de poste de travail, je me sers d'explorateur, mais c'est pareil. Dans les propriétés du disque inséré, non gravé, non mis en marche autrement que s'il tourne. Dans les propriétés, eh bien, il y a que c'est un CD audio. Si j'ouvre les propriétés du CD audio, j'ai marqué également CD audio avec une occupation énorme, puisqu'elle est de 1,9 giga. Et donc, si je clique sur le CD audio, sur la partie droite de l'explorateur, j'ai un track 01.cda.
Oui, alors, cette histoire-là, tu nous l'as déjà racontée voilà. La semaine dernière.
Alors, attends, bon, je termine.
Donc, on connaît parfaitement ce que tu avais dit sur ton ordinateur. Par contre, ton problème, c'est quoi au juste? C'est de pouvoir graver ou de pas pouvoir graver?
Alors, attends, alors.
Parce que là, ça ne nous dit rien. Tu as ça, bon, il peut y arriver sur certains DVD ou sur certains CD, il y avait quelquefois des programmes qui étaient déjà écrits. Mais ça n'empêche pas de les effacer et ça n'empêche pas de regraver.
Voilà, donc il s'agit...
Alors, est-ce que ça t'empêche de graver ou pas?
Alors, je tiens à préciser que mon informaticien, accompagné de son patron,
non, mais ça,
sont venus
écoute,
vendredi et n'ont pas résolu le problème.
Oui, non, mais est-ce que tu arrives à graver ou pas?
Eh bien, j'arrive à graver, mais ma capacité est vite atteinte, puisqu'il y a 1 giga 9 sur 4 giga 7 de machin, qui sont occupés par ce foutu système.
Oui, alors sur un CDRW, tu as la possibilité de tout effacer.
Oui, mais ça n'est pas ça. Jamais, c'est ineffaçable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Tu as utilisé un autre modèle de DVD?
Richard, si tu permets, je vais m'expliquer un peu.
Non, mais je voudrais quand même que tu nous dises, parce que ça, c'est une histoire sans fin. Est-ce que tu as essayé d'utiliser un autre DVD? Une autre galette? Une autre marque?
Ah, j'en ai essayé 6.
Oui, et sur les autres marques, hein, je dis bien.
Oui,
pas les mêmes marques.
Sur une autre marque, la marque Sentinel.
Oui, et tu as aussi ce problème.
Absolument. Tout ce que j'introduis dans la fente, immédiatement, sans graver, même sans le logiciel Nero, c'est-à-dire que J'ai des disques durs amovibles. J'ai pris un disque dur amovible, je l'ai formaté.
On va demander son avis à Elira, puisqu'Elira est en ligne aussi, et qu'il connaît bien ce genre de support. Ce qu'il en pense. Elira, qu'est-ce que tu penses de ce petit problème de gravure et de DVD qui est déjà gravé et sur lequel on ne peut rien enlever?
Sur le chat, il y a Olanet qui dit qu'il y aurait peut-être une limite sur les 2 gigas.
Alors,
2 gigas, je veux dire.
Voilà, je n'ai pas le chat tout à fait en face de moi, mais voilà, c'est la fameuse épopée du graveur qui limite à 2 gigas. Oui, d'accord. Alors donc, pour Olanerc, ce serait tout simplement, donc, je vois pas ce qu'il avait marqué. Est-ce que tu peux nous le redire?
Il pense qu'il y aurait peut-être une limite à 2 gigas des CD. Des graveurs.
Des graveurs.
Ouais.
Autrement dit, du graveur lui-même et non pas du support de gravure.
Oui, parce que je prends un disque, j'ai des disques durs amovibles. Je prends un disque dur que j'ai reformaté. Je mets dedans uniquement Windows 98. Pas de Nero, même pas de carte graphique, même pas de carte son.
Oui.
Je prends un CD que je sors de sa cellophane, entièrement neuf.
Mmh.
Je le mets dans la forme du DVD.
Oui.
Il me le reconnaît immédiatement comme un CD audio.
D'accord.
Ayant 1,9 giga d'occupation.
D'accord. Bon, alors, le problème est relativement simple. Tu fais changer de graveur. Au lieu de prendre un Litheon, tu en prends un autre. Étant donné qu'il est neuf, ça devrait pas poser
Richard,
de problème.
Avec mon informaticien, on en est au troisième graveur.
Oui.
On a mis un Samsung.
Oui.
On a mis un Little One.
Oui.
Et on a mis un Philips.
Bah, c'est parce que tu peux pas.
C'est
parce que il a une limite et tu peux pas graver au-dessus. Et tu as essayé d'aller voir sur le chat du concepteur de ton graveur, que ce soit Litheon ou les autres, pour avoir des informations sur le modèle.
Eh ben oui, il est compatible Windows 98.
Oui, mais compatible, bien sûr. Mais c'est pas ça ce que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est la capacité réelle de gravure, et ce que tu recherches, c'est pour quelle raison il pourrait y avoir ça.
Bon,
donc
Richard,
la meilleure solution, à mon avis, c'est de chatter sur le site du constructeur de ton graveur et de lui poser la question directement pour avoir
Richard,
une meilleure réponse que celle qu'on pourrait te donner.
Richard, je prends un DVD.
Oui, Jacques. Mais écoute, on va pas continuer là-dessus. Tu es bien gentil, mais on ne peut pas continuer là-dessus, Jacques, pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas de réponse à te donner.
Et que
la seule réponse qu'on pourra te donner, c'est d'aller voir sur le site du constructeur et de savoir pourquoi, en lui posant la question directement sur le chat, puisqu'il y a un chat exprès, justement sur le site des constructeurs, pour les problèmes que pourrait poser un lecteur quelconque.
Un graveur, quoi.
Ou un graveur. Donc, la meilleure solution, c'est ça, et je ne peux pas te dire autrement que d'aller voir chez eux. Puisque je n'ai pas du tout de réponse à te donner complètement. Jacques.
Bon, j'ai pensé que ça venait de Windows.
On peut penser ce qu'on veut. Le mieux, c'est d'aller chez le constructeur pour lui poser la question directement. Tu auras au moins une réponse cohérente sur son graveur et il pourra te répondre parfaitement.
Bon,
beaucoup mieux que nous.
Ça.
Voilà, Jacques.
D'accord, merci.
Merci beaucoup à toi.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Richard.
Oui.
Il y a Olaner qui dit aussi que, avant que je retrouve la ligne.
Oui.
Le système ISO-FS limite à 2 gigas.
Oui.
À 2 gigas. Donc,
effectivement.
Mais Nero utilise l'UDF qui permet d'étendre à plus, quoi.
D'accord. Donc, le système UDF permettrait dans ce cas-là, de graver avec une possibilité de gravure plus importante sur des CD-ROM qui acceptent justement une capacité plus importante. C'est ça?
Sûrement.
D'accord.
Moi, Windows, ça fait très longtemps que j'utilise plus et j'ai pas mal oublié le truc, quoi.
Bien sûr. Le problème, c'est que il faut reconnaître, Elira, que beaucoup d'utilisateurs utilisent quand même Windows.
C'est
la majorité.
Mais tu réponds très bien aux questions pour les systèmes Windows. Je m'en mêle pas, quoi.
D'accord. Non, c'était pour dire que de toute façon, lorsque c'est un conseil d'ailleurs que je donne à tous les auditeurs, Pourquoi ? Parce que je n'ai pas non plus la réponse à tout, que ce soit d'ailleurs sous Linux, sous Windows, sous d'autres systèmes. Le mieux, toujours, lorsqu'on a une connexion Internet qui est active, eh bien, c'est d'aller rechercher sur le site du constructeur de l'appareil que l'on utilise et qui ne fonctionne pas comme l'on voudrait, et d'aller rechercher, justement, il y a souvent une possibilité de soit correspondre par mail, soit correspondre par chat, pour avoir une réponse à sa question et pouvoir développer justement un contact pour mieux comprendre les dysfonctionnements d'un appareil. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que si on comprend pas trop sous Linux, si on a un accès quand même Internet, il est bien d'aller voir justement tout ce qui se passe sur les sites qui en parlent.
Ah oui, hein? D'ailleurs nous, les Linuxiens, on dit souvent faut lire la doc.
Voilà, exactement.
Commencer par lire la doc.
Voilà, tout à fait, je suis bien de cet avis. Malheureusement, il faut reconnaître que dans la majorité de ceux qui utilisent un ordinateur, la doc, c'est rébarbatif et ils n'ont pas tellement envie de la lire.
Ouais, c'est sûr. Mais pour ces gens-là, bah, il y a les lugs.
Voilà, exactement, où l'on discute et où l'on parle et où l'on a quelqu'un en face de soi. C'est bien. Alors, justement, on parle de Linux et donc de l'open source. Alors, oui, on m'indique qu'il y a
beaucoup
quand
d'auditeurs.
Même beaucoup d'auditeurs qui attendent. Alors, tout de suite, Pascal. Alors,
bonjour,
on accueille Pascal. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Richard. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est l'histoire d'un PC qui va pas très bien.
Oui.
Le PC est équipé de Windows Millennium et puis l'utilisateur a une carte graphique Nvidia Verto 128 MO/MB. Et il y avait un menu dans la barre de tâches en bas au coin pour régler la qualité de l'image. Il l'a réglé au maximum et puis depuis après il a été sur un site pour essayer de télécharger un pilote. Puis depuis ça, l'image s'est améliorée, mais il y a des petits soucis. Par exemple aussi, il a été sur un site internet où il y a une base de registre qui a attaqué ma base de registre. Attaqué, je sais pas si c'est le mot exact, l'expression qu'il faudrait employer, mais en tout cas même avec Adware. Eh bien, il donne un message comme quoi j'ai réussi à vous débarrasser de tout, sauf il m'énonce 4 ou 5 fichiers. Oui. Voulez-vous qu'un Adware au démarrage, tatati tatata, je redémarre Adware. Il se met effectivement en marche, mais il y a toujours le même message, donc impossible de s'en débarrasser. Oui. Je pense que tu as compris le problème.
Alors, lorsqu'il y a un problème de genre de virus ou de d'espion ou de ver ou de cheval de Troie qui empêche son ordinateur de
tu
fonctionner.
Tu peux me rappeler ce que c'est le principe du cheval de Troie, s'il te plaît?
Le cheval de Troie, c'est tout simplement un fichier qui contient un virus actif à l'intérieur, qui passe sans problème sur ton ordinateur et qui, une fois qu'il est installé à l'intérieur, va se développer sur ton ordinateur et donc contaminer pas mal de fichiers. Un cheval de Troie, c'est une référence en somme à l'attaque de la ville de Troie avec le cheval qui a été installé à l'intérieur de la ville et dont le ventre était bourré de soldats qui ont mis fin à cette histoire.
Je suis pas encore là, j'arrive encore à aller sur Internet, mais par contre, vous savez...
Alors, je te disais que pour essayer de régler ce problème, lorsque tu es sous Windows Millennium, tu essayes de redémarrer en mode sans échec. Donc, au démarrage de l'ordinateur, tu appuies sur la touche F8. Et lorsque ton ordinateur est donc en mode sans échec, tu lances l'analyse de ton disque dur avec Adware ou un autre antivirus, peu importe.
Analyse système complète, je fais moi, hein, quand j'ai cette case.
Bien sûr, analyse du disque dur complet.
Ensuite,
pas du système,
d'accord,
du disque
Richard,
dur complet.
Excuse-moi un petit détail, mais j'aurais quand même un petit détail important.
Oui.
Lorsqu'à la fin, Adware dit, j'ai détecté ça, tu trouves une colonne avec des icônes.
Oui.
Il faut bien cocher les icônes et ensuite taper sur suivant et voulez-vous supprimer ces objets et taper OK, c'est bien ça.
Normalement, oui, c'est comme ça que ça fonctionne.
Voilà, donc je l'ai bien fait et malgré tout, il m'a dit, j'ai pas pu effacer 4 fichiers. Alors maintenant,
d'accord. Alors, lorsque tu es en mode sans échec et que tu n'as pas pu donc supprimer par l'antivirus ces fichiers, ce que tu peux faire, c'est noter leur chemin.
Et puis, l'élève, tout ça, les voilà. Chiffres, les barres, le moindre détail, hein, c'est bien ça.
Bah, il faut pouvoir les récupérer là où ils sont.
C'est toi qui as dit que c'était délicat à faire, une fois, je crois, un auditeur, non, des auditeurs, de une petite fois, on a appelé pour ce même problème, non?
Bah, peut-être, oui, parce que...
J'ai une auditrice qui avait eu son mari avait été sur des sites un peu roses, on va dire, et puis, après, elle a été embêtée sans arrêt, j'avais enregistré l'émission et j'ai relu, il y a une semaine, effectivement. Oui. Ça avait l'air d'être un peu, c'est pas le même problème, non?
Alors, c'est pas forcément le même problème, mais on essaye différentes solutions pour essayer d'éradiquer justement ces
j'ai
fichiers.
J'ai pris toutes mes précautions, j'ai analysé avec Kaspersky, j'ai remis Kaspersky à jour, j'ai tout fait pour... j'ai remis les définitions d'Adware à jour également en ligne, j'ai refait, rien à faire,
ces fichiers sont toujours actifs.
Je peux exprimer un symptôme également important, que je t'avais parlé du beau ciel bleu sur l'écran, ça le fait souvent, et d'ailleurs j'ai un mal fou à sortir d'Internet pour me déconnecter, et j'ai un message d'erreur comme quoi Explorer, et écran bleu, pilote, VX, problème... et là, je suis obligé de faire ACTL à surpris, mais souvent, alors là, je peux pas le décrire, ça serait trop long, mais dans de plus en plus nombreuses situations, ça plante. Notamment quand je supprime les fichiers parasites, entre guillemets, d'Adware, écran bleu.
D'accord. Alors, ce que tu peux faire, donc, lorsque tu es en mode sans échec, c'est avoir noté donc le chemin et le nom du fichier que tu ne peux pas supprimer dans Adware ou dans Kaspersky. Il te les communique, donc tu les notes. Tu vas dans l'explorateur Windows et dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas dans Outils, Options des dossiers.
J'enregistre notre conversation, donc ça sera très simple, je repasserai la bande.
Outils, Options des dossiers. Donc, Options des dossiers, tu vas dans Affichage et dans Affichage, tu coches... visualiser les fichiers cachés.
D'accord.
Hein? Et tu décoches. Il y a une petite ligne plus bas qui doit s'appeler. Pareil, c'est l'équivalent. C'est autoriser la visualisation des dossiers et cachés et systèmes de Windows.
Tu sais que ça m'est arrivé une fois, mais il l'a réparé automatiquement. Il me l'a signalé, puis il l'a réparé automatiquement en démarrant. Et là, il l'a pas fait, par contre.
Donc là, tu fais ça. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans l'explorateur Windows, là où sont tes fichiers. Tu fais un clic droit dessus pour connaître les propriétés et voir s'ils sont simplement en archives ou s'ils sont cachés et système, auquel cas tu décoches cachés et système, et tu les effaces purement et simplement.
D'accord.
Et une fois ça fait, tu redémarres ton système en mode normal et tu vois si tu as résolu ton problème.
Tu m'avais dit de mettre AOL à jour à l'époque où je t'avais raconté l'histoire là que ça restait bloqué sur initialisation modem. Eh bien, tu sais, je l'ai fait et je me suis trouvé face à face à un site payant. Mmh. Donc, et finalement, à la maison, on a reçu des CD d'AOL 9, mais il y a marqué essai 15 mois. Alors, je ne sais pas si je peux l'installer et désinstaller le premier ou est-ce que ça va poser un problème. Alors,
si tu es abonné à AOL...
On est abonné à AOL 8. Bon, le 9, est-ce que ça pose résoudre ce problème
non,
de plantage?
Non, en principe, ça marche très bien aussi à AOL 9, il n'y a pas de raison. Hein.
Ouais, mais tu sais, moi ça continue à planter. Et quand je fais des essais, souvent après avoir fait des frags en MS config économique, c'est-à-dire en désactivant tous les pilotes au démarrage le plus économique possible, et bien là je fais des frags et souvent, bon je sais pas si c'est ça, hein, c'est peut-être pas ça, hein, mais souvent je crois pouvoir dire qu'il y a eu un des moments où après des frags ça aurait plus planté, alors je redémarre et puis au bout de 4-5 fois après ça y va.
D'accord.
Puis après, sans savoir pourquoi, ça y va. Mais quand on se met sur MS, je mets souvent en démarrage sélectif. Moi, à chaque fois, je fais Scandi, je fais des fracs. Enfin, tu vois, je fais vraiment le ménage sur le disque dur avant de commencer à travailler sans ma bécane. Je vérifie que tout va bien, etc. Bon, bah, à chaque fois, boum, là, ça, par contre, c'est un mur. Hein. Initialisation du modem, boum. Ensuite, pareil, bel écran bleu. Avec le même message, pilote, pip. Et ça, ah, bien avant qu'il y ait eu ce problème de registre, là. Hein. Bien avant.
Alors, si tu as vraiment des problèmes de registre, de la base de registre de Windows, à ce moment-là, une des meilleures solutions pour retrouver un équilibre à peu près stable, eh bien, c'est de reformater ton disque et de réinstaller. Hein.
Ouais, je sais, mais tu sais, c'est compliqué parce que j'ai un CDMSnet. Je l'avais emmené de chez un réparateur qui nous avait
changé le dur. Mmh.
Et alors, je sais pas comment il a fait, lui, parce qu'avec ce CD-là, il y a pas le système d'exploitation en lui-même. Je sais pas comment il a fait. Franchement, s'il a été en ligne pour installer un fichier complémentaire, parce que sur le CDMSnet, il y a pas tout.
Oui. Alors, effectivement, sur ces machines qui étaient vendues, je crois, chez Carrefour, ou l'équivalent.
En l'an 2000.
Voilà, c'est problématique parce que je crois qu'il faut lancer l'installation sur ce CD-ROM qui comporte et le système et les pilotes.
Ah ouais, d'accord.
C'est assez compliqué et ou démarrer à partir d'une disquette boot pour pouvoir installer le système.
Tu sais, j'ai repassé une bande d'une conversation avec un auditeur. J'ai repassé trois fois pour être sûr, et en fait la conversation se basait il y a 6 mois, je crois, enfin je sais plus exactement, sur le fait que pour installer OL, il valait mieux pas installer tout le CD-ROM. C'était ça la conversation essentielle.
Oui, c'est possible. D'ailleurs, tu n'es pas obligé d'installer tout le CD-ROM. Il y a besoin que de la connexion à OL, et puis certains petits pilotes dont l'explorateur AOL, puisque tu ne peux pas utiliser Internet Explorer pour passer sur AOL. Tu es obligé d'avoir le visualiseur AOL. Voilà. Donc solution, eh bien si tu n'arrives pas à régler ce problème de fichier intempestif au démarrage, de réglage d'AOL et autres, à mon avis, c'est quand même la réinstallation qui fera un très très bon ménage.
Et je pourrais le faire, ça, tu crois? J'aurais les compétences.
Normalement, il y a pas besoin de compétences. Il suffit normalement de rebooter sur le CD-ROM de réinstallation et ça devrait fonctionner.
C'est-à-dire, quand je vais mettre le CD-ROM, je vais avoir des instructions, je vais être guidé, quoi.
Voilà, mais il faut démarrer le CD-ROM à l'intérieur de la machine, évidemment. Et puis, surtout, positionner dans le BIOS le premier démarrage.
Alors, là, tu parles de BIOS, je t'interromps, parce que justement, après le plantage, souvent, ça se remet sur le BIOS. Alors moi, je tape exit, et puis l'ordinateur démarre. Petit détail, je reviens souvent sur le BIOS quand ça plante.
Oui.
Ça revient automatiquement sur le BIOS.
Alors, il est possible également que tu aies des barrettes mémoire qui flanche un peu, que tu aies une carte, soit une carte modem, soit une carte USB complémentaire, qui fonctionne mal, et auquel cas ça pose des problèmes sur tout le démarrage de ton ordinateur, sur le fonctionnement lui-même.
Mais sinon, l'ensemble, il fonctionne très bien. Il est très rapide, il traite des informations
quand tu démarres comme
mais
ça...
Mais il a ralenti, là, quand même, depuis qu'il y a eu l'infection de la base de registre.
Quand tu fais des recherches comme ça, il faut enlever toutes les cartes de l'ordinateur et ne laisser que la carte vidéo. Puis, une fois que l'installation est faite correctement et que tout va bien, à ce moment-là, tu rajoutes les cartes une par une.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Merci
pour toi, Pascal.
Bon après-midi.
Merci à toi. Bon après-midi. Alors, je vous rappelle quand même le numéro de notre standard 08 92 23 95 20 pour vos questions. Et lorsque vous entendez que nous sommes déjà occupés en ligne, au lieu de patienter, raccrocher et puis rappeler, ce sera mieux que de patienter vraiment trop de temps à attendre une réponse. Alors tout de suite, nous accueillons Christelle.
Oui, bonjour Richard.
Bonjour Christelle.
Bonjour à tout le monde. Alors voilà, moi j'ai trois petits problèmes, deux qui sont pas... Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Deux qui sont pas dramatiques en soi. Bon, un qui m'a un petit peu inquiété. Quand j'ai ouvert l'ordinateur tout à l'heure, j'ai eu un message, donc à l'écran, qui émane de Registry Cleaner, donc Clean My PC. Donc il y a marqué « Your Registry Scan is Overdue ». Do you want to run registry cleaner now? Alors, overdue, ça veut dire quoi? Ça, je pense qu'il n'a aucune idée.
Comment ça s'écrit?
Overdue, D-U-E.
Overdue?
Ouais.
Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on aurait un traducteur d'anglais, là? Overdue?
Ah, moi.
Alors, dis-nous un petit peu, overdue?
Hein? Bah, ça doit être HS, quoi. À mon avis, ça veut dire qu'il est plus, il est pas...
Oui, il est plus actif, autrement dit.
Je sais pas, à mon avis, c'est ça, oui.
Je connais pas.
Alors, voulez-vous activer le cleaner registre? Non. Alors, bon, c'est la première fois que ça me le fait. Il faut dire que hier, si vous voulez, j'ai j'ai Norton donc sur mon système, et qui effectivement toutes les semaines à peu près fait un scan de mon disque en fait, hein, ce qui est normal. Et je l'ai interrompu parce que je lisais un CD, donc j'ai interrompu dans sa tâche quoi. Alors c'est pour ça qu'il veut me dire, j'en sais rien.
Alors lorsque tu lances Norton, et essaye de le lancer quand tu n'as pas besoin de ton ordinateur.
Voilà, absolument.
Parce que il faut qu'il termine sa tâche correctement jusqu'au bout.
Oui, oui.
Si tu l'interromps à chaque fois, forcément il n'a pas fini, donc ça risque de poser des problèmes.
Tout à fait.
Par contre, pour ton nettoyeur de base de registre, en principe, lorsqu'on lance la base de registre, on la lance le nettoyage que de temps en temps. Ça ne doit pas se lancer au démarrage, ce truc-là.
Et voilà, il y a un truc qui est bizarre là, absolument. Alors, si vous voulez, j'ai l'opportunité, comme j'ai XP, de faire une restauration du système, bien sûr.
Oui.
Évidemment, ça plante rien et au contraire, ça remet à niveau.
Oui.
Bon, je pense que c'est peut-être ce que je vais faire parce que j'avoue, ça, toucher à la base de registre, ça me gêne beaucoup.
Oui, de toute façon, si tu ne sais pas vraiment comment nettoyer ou enlever des entrées de la base de registre, il vaut mieux ne pas y toucher,
voilà,
c'est
que
plus
c'est
sûr.
Question de prudence.
À moins que tu veuilles réinstaller tout ton système.
Ah non, du tout.
Mais
du tout, là.
Si tu tiens à garder quand même quelque chose qui fonctionne et puis ne pas toucher trop à ce que tu ne connais pas, il vaut mieux apprendre avant et puis ensuite toucher, hein, et dans ce cas-là, eh bien effectivement, la restauration du système à une date antérieure peut être une bonne chose pour remettre correctement les choses en place.
Tout à fait, hein. Éviter de faire des mauvaises manipulations.
Oui.
Je vous dis, ça m'a vraiment étonné. Alors, j'ai restauré le système, je dirais honnêtement, 3 fois avant-hier, parce que bon, j'avais un logiciel. J'arrivais pas à le faire tourner.
Oui.
Donc bon, je présume que ça risque rien puisque la restauration n'est pas réversible, hein, donc.
C'est-à-dire que tu peux faire une restauration et puis annuler cette restauration.
Oui. Bon, enfin,
puis en faire une autre. Hein.
Je l'ai pas annulée puisqu'elle ça a tout été remis à niveau. Donc je veux dire, c'est pas la fonction de restauration existe justement parce que ça ne risque rien. On est bien d'accord.
Oui. Alors, FDCC3 sur le chat nous dit que overdue, c'est obsolète, tout simplement.
Ah, d'accord.
Voilà. Merci le chat. Merci à tous.
D'accord.
Voilà. Alors, donc, c'est obsolète, tout simplement. Dépassé. Elle n'est plus à jour. Elle est, si tu veux, c'est une ancienne version.
Périmée,
voilà, aussi.
Tiens, bon.
Donc, apparemment, il faudrait peut-être télécharger une version plus récente de ce...
De la base de registre.
De ce, non, pas de la base de registre, mais de Registry Cleaner.
De Registry Cleaner,
voilà.
D'accord.
Donc, tu dois avoir une version qui est un peu ancienne et qui fonctionne mal avec Windows XP, et auquel cas, il te faudrait rechercher une nouvelle version qui s'adapte à Windows XP.
Bon, d'accord. Ok, voilà. Merci. Alors ensuite deux petites choses alors qui sont pas très 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 importantes. Quand je lis par exemple un CD sur Windows Media Player, oui. Je le mets en grand écran, on est bien d'accord, ce qui est très sympathique. Par contre, bon, j'avais réussi à le mettre en grand écran et à annuler la barre des tâches au-dessus hein, de l'ordinateur et la barre en bas. Hein.
Oui.
Donc là, j'arrive plus à l'annuler. Enfin, il y a sûrement une manif, mais bon.
Parce que tu as, oui, tu fais un clic doigt droit sur cette barre et tu vas voir que tu as dû cocher verrouiller la barre des tâches et auquel cas elle reste fixe.
D'accord. Donc les deux barres, alors celle du haut et celle du bas.
Oui, sûrement.
D'accord. Clic droit, ok.
Clic droit dessus, parce que si tu les as verrouillées, forcément Windows considère qu'elles doivent rester continuellement.
D'accord. Ce qui est dommage, parce que quand on lit un CD, c'est quand même plus sympa d'avoir un grand écran normal, quoi.
Bien sûr.
Sans barre, bien sûr.
Bien sûr.
Alors, d'accord, merci. Ensuite, la dernière question, qui est pas très... Alors, j'ai téléchargé Zoom Player, qui est un truc sympa. Donc, il lit les CD-ROM, évidemment. Alors, je suis un peu embêté, parce que j'ai un film en version originale.
Oui.
Et il y a une fonction de sous-titres dans Zoom Player. Le problème, c'est que j'ai regardé, bien sûr, sur le constructeur inmatrix.com Zplayer. Il y a une documentation qui est assez importante. C'est tout en anglais, bien entendu.
Mmh.
Alors, j'ai voulu, par voilà, il y a un traducteur par voilà, donc, qui est Sistran. Mais alors, il m'a traduit des pages qui sont absolument incompréhensibles.
Oui, ah ben là, donc... ça n'a rien d'étonnant. C'est une traduction approximative.
Totalement.
Et lorsqu'il ne connaît pas les mots, il te les laisse dans la langue d'origine.
Ah, complètement. Donc je veux dire, il faut surtout pas se servir de ça, parce que là, on peut faire des erreurs. Donc, en tout cas, je sais qu'il y a un fichier à télécharger que j'ai pas dû télécharger. Et si quelqu'un peut m'enseigner, par exemple, sur le chat ou quelque chose comme ça,
oui.
Ce serait sympa. Parce que, bon, ZoomPlayer a été, j'ai regardé sur journaldunet.com et plein oui. de trucs sur le net, oui. a été téléchargé très fréquemment hein, ces derniers temps.
Oui.
Et c'est un logiciel gratuit, donc il y a beaucoup de gens qui en sont très contents. Donc il y a des gens qui doivent connaître comment...
Les réglages, ou qui parlent bien anglais, peut-être. Et auquel
oui.
cas, effectivement, tu peux toujours leur demander une petite traduction légère de ce que tu n'as pas compris.
Oui. Non, mais
d'accord,
en
Christelle.
Fait, c'est pour mettre les sous-titres, voilà, tout simplement.
Pour, hein. pour tout simplement mettre les sous-titres.
Voilà,
alors,
arriver à mettre
je le répète, si vous avez une idée sur ZoomPlayer, comment mettre les sous-titres en français, bien sûr,
voilà,
ce sera sympa d'en avertir Christelle,
voilà.
tout simplement, à la prochaine, au sujet de la prochaine émission,
voilà, tout à fait.
Par
sinon,
exemple, d'intervenir.
Sinon, je regarderai sur le chat. Hein,
sinon,
de la
sur le chat, tu peux regarder. Voilà, Christelle.
Merci
à toi.
À bientôt. Merci,
à bientôt. Au revoir. Alors, je vous rappelle le numéro d'appel pour vos dépannages sur notre hotline. C'est le 08 92 23 95 20.
Elisabeth est avec nous.
Et nous accueillons Elisabeth tout de suite, oui. Bonjour Elisabeth.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Richard, bonjour Elira et bonjour tous ceux qui sont sur la hotline. Alors, mon problème est assez costaud. Je suis sur Windows XP 2002.
Oui,
allô.
Oui, je t'écoute. Oui.
Sur depuis le mois de septembre, avec mon donneur d'accès WANADOO, j'ai tout perdu en ayant antivirus très certainement.
Alors, qu'est-ce que tu as perdu
J'avais perdu tout Windows. Hein. J'ai réussi à le récupérer, mais en un mois et demi, en faisant plusieurs démarches, parce que j'avais un mode sélectif au niveau du démarrage, et finalement, j'ai fait en mode initial. J'ai remis en mode initial. Qui m'a fait perdre mon profil, bon, ça c'est pas, j'en ai enlevé deux, c'est pas bien grave, mais par la suite, bon, il était quand même toujours un peu lent au fonctionnement.
Oui.
Et toujours en ne pouvant pas me connecter sur Internet. Hein. Entre-temps,
oui.
j'ai pu avoir un autre modem d'AOL, puisque celui de WANADOO était défectueux, et depuis, impossible de me connecter. Impossible de me connecter. Alors j'avais AOL 7, alors AOL 8, AOL 9 se sont installés, mais je ne pouvais pas. Alors, ce que
mais
je ne savais pas au départ.
Quel est ton fournisseur d'accès réel?
Alors, j'avais WANADOO, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on ne peut pas avoir deux lignes ADSL, l'une écrasant l'autre, ça on me l'a expliqué par la suite.
Bien sûr.
Bon, je veux bien le comprendre.
Donc tu ne peux pas utiliser AOL si ton fournisseur
oui.
d'accès c'est WANADOO.
Oui, ça j'ai bien compris, je l'ai compris,
voilà.
je l'ai compris après, mais depuis, en allant sur AOL et en pouvant, toujours on me disait le modèle est mal incorrect ou mal installé. Bon, j'ai fait plus de 30-35 fois, bon, il y avait
oui,
rien.
Oui, mais AOL, il faut absolument le supprimer.
Alors je vous dis en gros ce que j'ai fait, je suis allé dans programme d'AOL, hein, dans leur disque d'installation, dans le CD d'installation. XP, parce que je suis sur XP, et j'ai installer trois petits programmes que je n'avais pas, dont Windows 2000. Ça m'a tout fait péter.
Alors attends, là,
ça m'a tout fait sauter.
C'est quand même un petit peu compliqué ton histoire.
Je me retrouve avec un affichage bleu, hein, pour pas perdre mes dossiers. Je vais sur F8, et en mode sans échec, et ça ne s'ouvre pas. Je ne peux pas du tout y aller.
Oui, forcément, tu as essayé d'installer quelque chose qui n'était...
Je vous dis tout de suite, je suis quelqu'un de malvoyant, donc j'ai beaucoup de difficultés quand même.
Oui.
Et une de mes amies qui est ingénieure, elle m'a dit, il faut taper sur supprime en faisant plusieurs touches, je l'ai fait, je me retrouve en DOS. Et entre-temps, elle m'avait dit d'enlever la pile, j'avais désactivé la pile. J'avais enlevé la pile de mon ordinateur, enfin, demandé à mon fils, hein, pour
oui.
désactiver le démarrage, si vous voulez. Bon, je l'ai remis et maintenant je ne sais pas comment on fait pour redémarrer, pour réamorcer, puisque ça me répond multidisque en bas qui s'affiche.
Écoute, ce genre de choses est à faire. Il vaudrait mieux que tu confies ton ordinateur à quelqu'un de voyant, parce que le problème, c'est que tu n'arriveras pas à faire quelque chose de correct sur cet ordinateur maintenant. Mmh. La seule solution serait de réinstaller complètement tout. c'est-à-dire de reformater ton disque et de réinstaller tout.
J'ai deux disques durs.
Oui.
J'ai pas fait de mauvaise manip, je veux dire, avec le disque, le second disque. Mais je pense qu'il y a une, ça doit être très simple par rapport en MS-DOS, sauf que je ne sais pas. Est-ce qu'il faut mettre automatique ou est-ce qu'il faut mettre user avec moi j'ai trouvé mes deux disques avec l'utilisation que j'avais en fichier, parce que j'ai beaucoup de données personnelles.
Oui, donc, mais tes données personnelles sont sur le deuxième disque.
Sur les deux, j'en ai beaucoup. Windows 98, j'y touche presque pas, hein, c'est surtout pour...
Parce que tu as deux systèmes d'installer dessus.
J'en ai qu'un. Oui, l'autre est installé, mais je l'utilise pas, puisque c'est seulement pour les
fichiers... Non, écoute bien ce que je te demande. Tu as deux disques durs.
Oui.
Donc tu as deux systèmes d'exploitation différents. Tu as Windows 98 et tu as Windows XP.
Oui, voilà.
Un sur un disque, l'autre sur l'autre disque.
Voilà, mais je... Bon.
Tu peux démarrer sur un disque ou sur l'autre.
Non, je peux utiliser avec le système d'exploitation XP.
Tu ne peux pas démarrer sur 98?
Non. Il est en secondaire.
Alors, à ce moment-là, mets-le en disque principal.
Faire l'inverse.
Bah oui. Donc tu vas démarrer sur 98. Tu vas récupérer tes données qui sont sur l'autre disque. Et lorsque tu auras fini ça, tu vas remettre, comme c'était à l'origine, ton disque maître, qui est normalement sous XP.
Oui, oui, oui.
Tu vas formater ce disque et réinstaller complètement XP.
Parce que j'ai beaucoup de données que je pourrais pas mettre sur l'autre, c'est ça. Il est presque plein, le premier, hein, 98, il est presque plein. Je pourrais pas, j'ai trop de données sur le deuxième, voilà.
N'as pas un graveur?
Ça fonctionne pas là, je peux pas utiliser.
Non, mais sous 98, ça devrait fonctionner quand même, le graveur.
Je ne sais pas. Ça ne s'ouvre pas en mode sans échec, on me dit de...
Non, mais il faut...
Sinon, tout fonctionnait auparavant.
Mais écoute-moi, il faut que tu changes, que tu intervertisses tes disques, c'est-à-dire que tu mettes le maître sur 98. Oui. Là, tu vas démarrer sur 98. Automatiquement, si ton disque fonctionne.
Si on m'avait installé XP, c'est parce que l'autre avait beaucoup de difficultés au démarrage, au préalable. Et c'était seulement pour mes données. Hein. Il m'avait dit, je te laisse, tu prends tout ce que tu veux. Enfin, un ami qui me l'avait qui avait réparé. Mais disons que, apparemment, je ne sais pas si le système fonctionnerait. Hein.
Oui, alors à ce moment-là, il vaut mieux que tu fasses venir ton ami et qu'il te sauvegarde tes données qui sont sur le disque XP, sur une clé USB, par exemple, si ça contient...
Une autre question, je voulais savoir si j'avais un disque dur externe, est-ce qu'il était possible de transférer toutes mes données?
Oui, à condition que tu puisses démarrer sous Windows XP.
Ah, voilà.
Bah oui, forcément.
C'est toujours le problème, oui.
Ou sous un autre disque, ou alors un CD-ROM de boot, par exemple. Un CD-ROM qui te permettra d'être sous DOS et puis de pouvoir faire le transfert des données sur le disque externe.
Ce n'est pas...
Encore que, de toute façon, sous DOS, un disque dur externe en FireWire, il n'est pas reconnu. Donc, ça pose plus de problème du tout.
Richard ?
Oui, Eliram ?
Ben, on peut essayer déjà avec une Knopix, par exemple.
Oui.
Récupérer ses données, trier, graver.
C'est pas une mauvaise idée, Lyra. Oui. Alors si tu veux nous expliquer à l'antenne, parce que moi effectivement je connais, mais ce serait bien que tu nous le dises et que tu en fasses profiter donc Elisabeth qui t'écoute et les auditeurs également.
Ben c'est simple, c'est un CD Live qui contient un système Linux complet avec tous les outils dont on peut se servir. Navigateur internet, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout, quoi. Il y a tout. Il y a
l'imprimante, le lecteur de CD-ROM et le graveur.
Normalement, on met le CD dans le lecteur, on boot sur le CD et tout est détecté automatiquement.
Et donc, Elisabeth, tu vas te retrouver sur un système d'exploitation
équivalent dans la mémoire.
Voilà, équivalent à Windows. Tout à fait.
Ah oui.
Tout à fait aussi performant et qui te permettra donc ces données de pouvoir les mettre sur un CD si tu as un graveur sur ton ordinateur, bien sûr.
Ou simplement de faire du tri.
ou simplement de faire du tri. Mais je pense que Elisabeth a le deuxième disque qui est plein, donc oui. Dans ce cas-là,
ça faudrait graver à ce moment-là. Ouais.
Voilà, les données peuvent pas être transférées, ce que je lui avais suggéré en faisant un échange de disques tout simplement. Mm-hmm. Mais donc comme c'est pas possible, en démarrant sur Knoopix, tu auras également. Alors je ne sais pas, Elira va nous le confirmer si la version Knoopix a la possibilité de graver sur un graveur.
Oui, il détecte les graveurs. Il y a 4 AB normalement.
Oui.
C'est un logiciel de gravure très bien fait. Il y a Zakel qui me dit qu'il ressemble un peu à Nero.
D'accord.
Nero, oui.
Oui, mais Nero ne fonctionnera pas.
Ça ressemble un peu à ça, l'interface graphique. Oui. Et il suffit de suivre la procédure pour pouvoir graver, quoi.
D'accord.
Et que tout est détecté au démarrage, quand on introduit le CD, tout est détecté. Généralement, il n'y a pas de problème.
Parce que là, mon souci, c'était le fait que depuis que j'ai, fait la dernière opération, bon, on me dit qu'il y a une erreur, bon, mes dossiers sont préservés. Appuyer sur F8, c'est ce que je fais. Après, je retourne sur mode sans échec. Mais si vous voulez, j'ai l'affichage de la page noire avec Windows XP, mais tout de suite, j'ai ma page d'erreur qui revient derrière.
D'accord.
Donc ça ne fonctionne pas.
Voilà, donc ça ne fonctionne pas. La solution que t'as donnée, Elira, c'est pour pouvoir accéder à ce disque dans de bonnes conditions sur un autre système et pouvoir graver tes données. À partir de là, une fois qu'elles seront gravées sur ce CD-ROM, elles seront donc sauvegardées et tu pourras effacer complètement ton disque qui contient XP et réinstaller complètement XP. Oui. Voilà, Elisabeth.
Je pense qu'il faut repartir sur des bases saines.
Oui, absolument.
Et où est-ce que je peux me procurer alors ce...
Alors,
je crois que c'est Knoopix.org.
Voilà, c'est Knoopix.org. Mmh. Alors, ça s'écrit K-N-O, 2P, je crois.
Ouais, il y a 2P.
2PIX.
Oui.
.org.
Oui.
Et là, tu peux télécharger.
Alors, sur une autre machine. Oui.
Sur une autre machine. Oui. Sinon, tu as un bon de commande qui est sur la page de Knoopix que tu remplis, dans laquelle tu demandes un CD-ROM Knoopix. Ça coûte vraiment 4 sous et il te l'envoie dans la semaine.
Sinon il y a Icarios aussi. Hein.
Alors voilà, Icarios également. Qui permet de faire ce
genre de
ces achats, cet c'est achat.
Icarios.fr.
Icarios.fr.
Ouais. Icarios.fr.
D'accord.
Et là, c'est une. Là, on commande même des distributions Linux. Mm-hmm. Donc, que ce soit la Knoopix, Mandrake, même FreeBSD, OpenBSD, tout est là, quoi. Même des bouquins.
Oui.
De la documentation, des bouquins, quoi.
Et d'accord.
Par rapport donc après ensuite à mon installation AOL9, ça change rien.
Ah ben AOL9, il faudra l'enlever complètement étant donné que c'est pas ton fournisseur d'accès.
Si, c'est mon fournisseur d'accès maintenant parce que c'est la ligne qui a écrasé Wanadoo.
Attends, tu as changé de fournisseur d'accès?
Oui, j'ai demandé.
Ah ben c'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit non.
Si, j'ai dit entre-temps, la ligne AOL avait écrasé Wanadoo, donc Wanadoo n'était plus mon donneur d'accès puisque je ne le savais pas, je l'ai su entre-temps, mais enfin, en un mois et demi, je ne savais pas ça. Mais je ne peux pas me connecter quand même. Entre-temps, avant mon problème, là, avant le problème qui se passe, je ne pouvais pas me connecter.
Alors, écoute, le mieux, c'est de réinstaller complètement XP, puis de faire ton installation correcte sur AOL. Mm-hmm. Et à ce moment-là, tu devrais te connecter.
Beaucoup de gens me disent que AOL 8 est merdique et qu'il vaut mieux, parce que j'avais le 7, hein. Et qu'il valait mieux le désinstaller et repasser tout de suite au 9. Enfin, ça, c'est beaucoup de gens autour de moi qui me...
Oui, de toute façon, tu peux le faire, effectivement, mais...
Ah oui, d'abord, il faut que je puisse d'abord...
De toute façon, il faut déjà réinstaller tout.
Bah oui.
Alors, commence par ça, et ensuite, tu feras ta connexion Internet.
D'accord.
Voilà, Elisabeth.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir. Nous accueillons tout de suite Yann, s'il a eu la patience de nous attendre. Oui, bonjour Yann.
Oui, bonjour. Donc, je vous appelle parce que j'ai un problème avec mes lecteurs CD-ROM sur mon PC. En fait, donc, j'ai un ordinateur avec Windows XP Pro installé dessus.
Oui.
J'ai fait une mise à jour des drivers de Nero.
Oui.
Et il me semble que suite à ça, du coup, quand je mets un CD-ROM dans mon lecteur, c'est un lecteur DVD ou dans le graveur, quand j'essaye d'accéder dessus, quand c'est un CD de data, et ben j'ai un message, ce CD n'est pas formaté pour Windows.
Oui.
Alors qu'avant, j'avais aucun problème. Quand j'essaye de mettre un disque de musique, il n'y a pas de... Enfin, je dirais le programme de Windows Media se lance pas automatiquement.
Oui.
J'essaye aussi avec des supports type clé USB sur d'autres ordinateurs d'amis, c'est reconnu, mais là sur le mien, il me dit le même message, comme quoi il ne reconnaît pas parce que c'est pas bien formaté. Et alors ce que j'essayais de faire aussi, c'est que quand je lance Windows Media, enfin le lecteur de Windows, et que je lui dis d'aller chercher dans le lecteur de DVD, là il lance bien la musique.
D'accord.
Donc du coup, j'ai pensé à reformater, mais bon, je me demande
peut-être pas à ce moment-là. Ce que tu peux faire déjà, c'est commencer par désinstaller Nero avec tout ce qui a été mis à jour. Remettre à jour ton Windows XP sur le site de Microsoft.com. De manière à ce qu'il ait les derniers patchs, que ce soit pour la sécurité, pour Internet et pour le reste, hein, qu'il soit vraiment à jour. Ensuite, redémarrer ton ordinateur à la rigueur pour que tout soit bien propre, bien net. Et puis, réinstaller Nero, la version que tu as.
Ah ben, c'est que le problème, c'est que pour le réinstaller, il faut que j'ai un lecteur CD.
Oui, mais le lecteur CD, il est toujours reconnu sous Windows XP.
Oui, mais il n'y a aucun autorun, il n'y a rien qui se lance. Si je mets un CD d'installation standard, Windows le reconnaît pas, je dirais.
Windows ne le reconnaît pas. Si, il le reconnaît, seulement tu as peut-être désactivé la fonction de démarrage automatique d'autorun du CD-ROM.
Enfin, elle a peut-être été désactivée.
À ce moment-là, peu importe, même si elle est désactivée, momentanément, tu peux faire démarrer, exécuter. Dans exécuter, tu vas sur parcourir, tu recherches ton lecteur de CD, et dans le lecteur de CD, tu as l'exécutable, soit install, soit setup, en général c'est ça, qui te permettra de lancer l'installation de Nero.
D'accord.
Okay. Voilà, peu importe qu'un CD ne démarre pas, c'est pas problématique. Tu as toujours une possibilité, en faisant démarrer, exécuter, d'aller et parcourir. Ouais. D'aller sur le CD-ROM et de demander qu'il lance l'exécutable.
Voilà, je viens juste d'essayer de faire ça.
Oui.
J'ai fait démarrer, exécuter, donc j'ai fait parcourir, et quand je sélectionne mon lecteur CD,
oui,
il me met le disque n'est pas formaté, et c'est le même message.
Ah, toujours?
Ouais.
Ah, alors
et
là,
il dit,
c'est...
Windows ne peut pas lire à partir de ce disque, le disque peut être endommagé, ou il utilise peut-être un format qui n'est pas compatible avec Windows.
D'accord.
Ça donc me donne l'impression comme s'il y avait quelque chose qui avait été topé au niveau du cœur de Windows.
Pas forcément, ça peut être également ton lecteur lui-même qui a un problème.
Ah, peut-être, oui.
Oui.
Mais c'est bizarre que ça me fasse ça et sur le lecteur CD, et sur le graveur qui est lui aussi lecteur CD.
Oui.
Et sur l'USB, pareil.
Et sur l'USB, pareil.
Ouais.
Ouais, alors là, effectivement, je pense que le mieux ce sera peut-être de réinstaller ton Windows. Oui, il y a un problème quelque part de reconnaissance, mm-hmm, mais c'est que ça soit n'importe quel disque, c'est pareil.
Ouais.
Oui, d'accord.
Ouais, parce que justement j'ai fait l'essai, là j'ai récupéré un lecteur MP3.
Oui.
Donc j'ai mis des photos sur une partie du disque dur du lecteur.
Oui.
Et donc je peux le voir avec d'autres PC.
Oui.
Et avec le mien, il me donne le même message.
Ah, d'accord.
Donc je me dis que...
Bien, oui, je crois que là, la solution, c'est une réinstall.
Malheureusement.
Oui, oui. Ben non, de temps en temps, ça fait beaucoup de bien.
Ouais,
ça remet
ouais,
les
ouais.
choses en place. On,
oui, tout à fait. Ça,
on
ça
supprime les fichiers qui servaient à rien. Mm-hmm. Les pilotes qui n'étaient pas forcément très fonctionnels. Et on remet à jour des pilotes qui vont bien. C'est fort possible, hein.
Ok.
Voilà, Yann.
Bah, merci quand même, puis bonne journée. Hein.
Merci à toi et bonne réinstallation. Alors.
Merci.
Oui, Richard.
Oui, Elira.
En fait, pour Windows, souvent, on se tape des réinstallations pour vraiment partir sur des bases saines.
Oui.
C'est ça le plus pénible, en fait.
Oui, mais je pense également que justement parce que la majorité des utilisateurs, tu as écouté comme moi ce que disent les utilisateurs. Or, il y en a beaucoup qui changent, mettent à jour, pas toujours dans le bon sens, ou qui font des installations un petit peu bizarres. Une installation Windows qui est bien faite fonctionne à mon avis sans problème.
Ouais, c'est sûr. Hein? Mais sous Linux, quand même, on a des outils. Par exemple, ben, on met une Knopix et avec les outils de Linux, on peut arriver à faire vraiment du ménage sur des disques durs, même sur le système, quoi.
D'accord. Oui. Sur le système également, tu penses que tu peux en partant d'une Knopix récupérer ton système Windows?
Je pense qu'on peut réparer des choses.
Ah, alors là, tu nous intéresses.
Ce fichier Linux dans un répertoire.
Oui.
Et on a accès à tout, quoi. À tout.
Oui. Oui. D'ailleurs, je vois que sur le chat, Fred nous dit, ce sont les bases de registre qui ont été atteintes et c'est mort. Effectivement, le problème de Windows, c'est la base de registre. C'est l'ossature elle-même. Et lorsque l'on change ou que l'on mette à jour certains programmes, ils changent certains paramètres dans la base de registre. C'est vrai, mais c'est quand même pas courant que l'on ait plus accès à un périphérique en lecture, à plusieurs périphériques en lecture.
Et en fait, la différence entre Windows et Knopix et Linux, pardon.
Oui.
C'est que Linux, ce sont que des fichiers, donc c'est lisible. Les fichiers de configuration, on peut les lire.
Oui.
Et donc c'est plus simple que de se taper des recherches dans la base de registre, de clés.
Effectivement, c'est quand même un petit peu plus simple une fois que l'on connaît.
Ouais, c'est toujours pareil. On en revient à l'histoire qu'il faut un petit peu lire, donner de la peine.
Voilà, exactement. C'est
de la peine pour.
C'est plus simple après, mais il faut forcément lire pour savoir. On n'a pas la science infuse
des
différents composants, donc ça passe par une phase d'apprentissage, quelle qu'elle soit. De toute façon, les utilisateurs de Windows ont obligatoirement fait un passage de connaissances et d'apprentissage, puisque au départ nous sommes passés donc de 3.11, 3.1 même jusqu'à maintenant XP. Il a bien fallu à chaque fois s'adapter et lire quand même pour apprendre.
Oui, la plupart des utilisateurs en fait ne lisent pas sous Windows, ils cliquent.
Oui, c'est vrai.
Sur OK, oui. Ils lisent même pas les licences.
Oui, bien sûr. Et c'est le problème est un petit peu là.
Ah, j'étais un peu comme ça aussi avant.
Oui, maintenant tu lis.
Ben maintenant je lis tout. Ouais.
Voilà, donc c'est finalement une bonne école Linux. Hein.
C'est une bonne école parce qu'on apprend à comment tout marche, quoi.
Et exactement. Mais c'est quelquefois, il faut reconnaître quand même un petit peu compliqué d'aller chercher les informations.
C'est sûr, mais comme me dit Zachiel, là faut contacter les lugs.
très bonne réponse. très bonne réponse.
Lugs sur le net, il y a de l'IRC, on trouve des serveurs IRC de lugs.
Oui.
Pour Parinux, je me souviens plus, faut signer.
Oui, je crois qu'il faut s'enregistrer en ligne pour utiliser justement ce chat. Hein.
Ah, sûrement, mais bon, c'est juste des enregistrements.
Voilà, c'est tout simplement.
Comme sur le chat de RIM.
Voilà, exactement. Donc, c'est comme sur le chat de RIM.
Histoire de sécurité tranquille, quoi.
Voilà, pour être sûr que les gens qui vont se connecter ont quelque chose à dire, à demander au sujet de Linux. Quoi. Les autres vont pas oser ou vont se dire bon, c'est pas la peine que j'y aille. Et donc ça sélectionne un petit peu. Mais il faut dire aussi aux éditeurs qu'ils n'aient pas peur de s'enregistrer. Ça n'est ni payant ni quoi que ce soit.
Libre.
C'est tout à fait libre. Voilà. Alors on accueille tout de suite Jean-Michel qui a également une question à poser.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Michel.
Oui, d'abord pour l'auditeur là, de tout à l'heure du début de l'émission, mais comme j'arrivais pas à vous avoir,
oui.
À propos de AOL, il se demandait si il pouvait enregistrer AOL 9.
Ah
alors,
oui.
Si vraiment il comment dire, il est adhérent, enfin bon, bref, si c'est son fournisseur officiel et que c'est pas bidouillé.
Oui.
Normalement, il peut en ligne demander à AOL d'avoir une version 9 et d'ailleurs, après, a priori, il l'affiche assez souvent.
Oui, il y a un endroit de téléchargement pour les utilisateurs enregistrés.
Voilà, tout au moins, il peut demander qu'on lui envoie.
Ou demander qu'on lui envoie, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Surtout que souvent, AOL envoie
gratuitement,
justement,
plus, hein.
Gratuitement à ses adhérents le CD-ROM avec la version 9.
Enfin, voilà. Donc,
au fil des améliorations de version, d'ailleurs, souvent, il l'envoie directement.
Directement, oui. Mais bon, là, s'il l'a pas, bah, il peut toujours demander. En ligne, il l'aura gratuitement, voilà.
D'accord.
Alors moi, j'ai une autre question toute bête. C'est, voilà, lorsqu'on ouvre son PC, on a un bureau avec des images de fond.
Oui.
Bon, qui sont dans affichage, je crois. Quand on va dans le, c'est dans affichage. Hein,
oui.
Il me semble bien.
Oui,
voilà.
Oui.
Et je voulais savoir comment supprimer, parce que bon, j'ai mis quelques photos, on va dire de charme pour être bon.
Oui.
Voilà. Et je dois, je vais donner mon PC à.
Oui, il vaut mieux les retirer.
Voilà. Donc, et je ne sais pas par où les retirer.
Alors, normalement, bon, pour ne plus l'avoir déjà à l'écran, tu vas dans. Tu cliques avec le clic droit de la souris sur le milieu de l'écran. Tu demandes paramètres. Ensuite, paramètres, tu vas... donc, c'est les paramètres de l'affichage. Tu vas sur fond d'écran. Ou l'onglet... Oui, fond d'écran, je crois. Ça doit être ça. Affichage ou fond d'écran. Je ne sais plus l'onglet qui correspond. Ou bureau, peut-être. Et puis là, donc tu as dans cette partie de fenêtre, tu as une petite liste sur laquelle tu mets l'image que tu veux.
Oui.
Et les images que tu as mis sont dans un répertoire que tu peux parcourir. Par exemple, si tu cliques sur une image du bureau que tu changes, si tu vas sur parcourir, il t'amène automatiquement dans mes documents, mes images, par exemple.
Alors parcourir, oui, c'est quoi?
Alors,
ça m'amène dans parcourir, donc
dans tes documents,
dans Windows, dans oui.
Voilà,
dans...
et là tu as l'arborescence de ton disque dur, donc tu peux rechercher l'endroit où étaient ces photos et supprimer ces photos très très facilement.
Mais oui, mais le problème c'est que là je me retrouve face à Windows.
Oui.
Hein, enfin, quand je fais parcourir, je tombe dans Windows.
Alors, lorsque tu fais sur les propriétés de l'affichage sur bureau, l'onglet bureau, tu as une petite un petit bouton qui s'appelle parcourir à droite, et là, effectivement, tu as l'arborescence de ton disque dur.
Oui.
Tu as mes documents, mes images, poste de travail, boot C. Enfin, tu peux avoir tous les disques que tu as, plus le lecteur, etc. Plus les disques amovibles. Donc tu vas sur le C, et donc sur le C, tu vas rechercher dans l'endroit où sont ces photos, l'endroit où ils sont et elles sont, et là tu les supprimes.
Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas où elles sont, c'est ça le problème.
D'accord.
Comment savoir où elles sont?
D'accord. Alors là, puisque sur ton bureau tu as cette image, automatiquement quand tu demandes les propriétés du bureau, le nom de l'image est dans cette liste.
Ah bon, d'accord. OK.
Donc automatiquement tu prends les noms de ces images et puis ensuite tu fais une recherche, tout simplement démarrer rechercher. Là tu mets le nom du fichier .étoile et tu vas trouver tous les fichiers qui correspondent à ces images et l'endroit où elles seront.
Ah oui, OK, d'accord. Ouais. OK, donc il faut faire démarrer rechercher.
Voilà, une fois que tu as le nom du fichier, il te suffit de faire une recherche sur le nom de ce fichier.
D'accord, ok, bon, bah, ok, d'accord.
Voilà, bon, bah, c'est, voilà tout c'est simplement. Simple. Tout simplement.
Tout simplement, bon, bah, voilà. D'accord. Ok, ben bah, voilà, c'était une petite question.
Merci prête. Jean-Michel.
Mais je te remercie.
Merci à toi.
Merci,
bon après-midi. Au revoir. Alors, une bonne nouvelle, Elira.
Oui.
Je vois dans 01 informatique de ce mois-ci, du mois de janvier, open source, la gendarmerie ouvre la route. Alors c'est une très belle photo avec des gendarmes en moto, bien sûr. Donc on parle de l'open source tout simplement parce que 70 000 postes de travail de la gendarmerie nationale seront occupés, équipés d'openoffice.org. À la fin de l'année.
Ah oui, c'est une bonne nouvelle.
Donc, c'est une excellente nouvelle.
Ouais. Hein, d'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs d'essayer OpenOffice.
Absolument. C'est même pas d'essayer, c'est de l'utiliser parce qu'il est, franchement...
Je voulais pas trop...
aussi performant. Non, mais il faut reconnaître ce qu'il est. Il est aussi performant que Microsoft Office dans les versions complètes. Hein,
la,
je
la
parle.
Version, bon. Ben on a...
Sauf qu'il n'a pas, Access. Donc, pour ceux qui utiliseraient Access, effectivement, il ne l'a pas. Mais je crois qu'Access, d'après mes renseignements, est en développement et ou doit être sorti. Il y a une version qui est sortie, une version d'évaluation, une version test, je crois, d'Access qui est sortie sous Linux. Mais pour tout ce qui est du traitement de texte et du tableur et du logiciel de dessin et du logiciel de mathématiques, c'est-à-dire d'écriture d'équations, OpenOffice.org est des plus performants.
Oui, sinon, pour les puristes, il y a le LaTeX. LaTeX, pardon.
Oui, le LaTeX.
C'est écrit pareil.
C'est pareil.
Mais ça se prononce LaTeX.
LaTeX, oui. Alors donc, on peut également utiliser LaTeX.
Mais là, bon, ça demande quand même
un petit peu de connaissance.
Lourd apprentissage.
Voilà. Tandis que OpenOffice.org est beaucoup plus axé dans la façon d'utiliser d'Office, de Microsoft Office. Et on peut exécuter exactement les mêmes tâches, c'est-à-dire incorporer des feuilles Excel dans des feuilles Word, incorporer des tableaux dans Word, tout faire des modèles de pages sous OpenOffice Text, qui est l'équivalent de Word, exactement aussi bien, je le répète, que sous Office, Microsoft Office.
Oui, et surtout, on sauvegarde le fichier dans un format ouvert.
Exactement. Je ne pensais pas à le dire, mais ce que tu dis, alors, puisque tu as commencé, je te laisse le soin de continuer sur cette explication de manière à l'approfondir un peu pour les auditeurs, si tu veux bien. Ce que tu entends par enregistrer dans un format ouvert, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que ce format est libre, le format de fichier est libre. Tout le monde y a accès et on peut savoir comment il est fabriqué. Par exemple, un point doc, on ne sait pas trop comment il est fabriqué.
D'accord.
Comment c'est agencé à l'intérieur.
Oui, parce que c'est vrai.
D'ailleurs, quand le problème, c'est par exemple essayer d'ouvrir un point doc avec Office de maintenant.
Oui.
Un point doc, alors que le fichier a été créé il y a 4 ans, quoi, avec un vieux Office.
Oui.
C'est, parfois ça passe. Souvent ça casse.
Souvent ça casse, oui. Il n'est plus capable de reconnaître un vieux format, c'est vrai.
Et donc, bon, avec les formats ouverts, là, c'est l'avantage que ce sera toujours lisible.
Voilà, d'ailleurs...
Dans 4 ans, on pourra relire le fichier qu'on a créé avec OpenOffice et qu'on a sauvegardé dans le format ouvert.
Tout à fait. D'ailleurs, OpenOffice propose, justement, lorsqu'on a des vieux fichiers, de l'ouvrir, des vieux fichiers doc, justement, de l'ouvrir avec... l'équivalent d'une vieille version Microsoft Office, eh bien, il l'ouvrira quand même. Ce qui est assez étonnant.
Il y aura peut-être quelques défauts de mise en page.
Oui, mais...
Il l'ouvrira, quoi.
Voilà, l'essentiel, c'est de récupérer le texte. La mise en page, on peut toujours la refaire, c'est pas problématique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'OpenOffice récupère le texte complètement. C'est ça qui est étonnant.
C'est déjà ça, ouais.
Oui, oui, oui. Alors souvent, effectivement, lorsque c'est une mise en page un petit peu compliquée, il va faire, OpenOffice.org va faire plusieurs pages avec les différentes choses qui ont été incorporées. Je ne sais pas si tu as remarqué.
J'ouvre pas trop de trucs, je veux dire.
Non, mais il faut faire des essais quelquefois, sinon, sinon on peut pas savoir. Et donc j'ai fait les essais.
Ouais. Et voilà. Sinon, OpenOffice peut sauvegarder directement en PDF.
Tout à fait. Oui, ce que n'est pas capable de faire Microsoft Office.
Ça c'est très bien.
Voilà, et donc on a une présentation PDF qui donc va pouvoir être lisible absolument partout.
Ouais.
Puisque Acrobat Reader est distribué gratuitement, le Reader est distribué gratuitement et donc permet de visualiser tous les fichiers PDF. Hein. Alors, pour en revenir au problème de tout à l'heure avec la version de Nero, à l'installation d'un pilote de Nero, on a sur le chat
Younes,
voilà, qui nous dit que pour l'auditeur qui a un problème de pilote suite à une installation de Nero, il suffit d'aller au gestionnaire de périphériques, puis choisir revenir à une version précédente et ça résout le problème. Alors effectivement, gestionnaire de périphérique, revenir à la version précédente, ça permettra de résoudre ce petit problème de pilote qui ne fonctionne pas bien sur Nero. Alors
nous avons Vincent.
Nous avons Vincent. Voilà. Oui. Donc on accueille Vincent.
Oui, bonjour Richard, bonjour Vincent. Tout le monde. J'avais appelé il y a 2 semaines par rapport à un problème pour installer Linux sur un vieux portable Toshiba.
Oui.
Ça peut être quelque chose.
Alors. Et donc,
c'est un Pentium 100 avec 40 MO de RAM et oui. Un petit disque de 810 MO. Et donc, j'avais appelé pour trouver une distribution. Et là, je rappelle justement pour dire que j'en ai trouvé une. Donc,
oui.
C'est l'Adreno Linux. Et c'est une petite distribution qui s'installe. Alors, moi, j'ai installé en mode UMS-DOS. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de partitionner le disque dur. Il a suffi que je récupère un fichier, de 42 MO sur le site de Adreno. Et de le dézipper, sur la racine de MS-DOS. Et
oui.
Ça m'a créé, donc, un répertoire Linux. Et là, j'ai après, en retournant sous DOS, il suffit que je lance linux.bat et là j'ai Linux qui se lance sur mon ordinateur.
D'accord.
Donc voilà, je voulais.
Alors je ne sais pas si c'est toi qui nous avais envoyé un message sur le contact nso.com, mais effectivement j'allais justement
en parler. J'ai envoyé 2 messages.
D'accord. Donc c'est bien toi.
Voilà.
La Drinou Linux 1.8
voilà.
D'origine française
voilà.
Est basée sur la Slackware 7.1.
7.1.
Voilà. Donc tu vois, je garde quand même les messages et je compte en parler, mais j'ai pas toujours le temps.
Oui, je me doute bien.
Donc, j'ai pas toujours le temps.
Donc tout ça pour dire que vraiment ça fonctionne, enfin vraiment bien. J'ai un environnement qui est ICE Windows Manager d'origine.
Oui.
J'ai installé XFCE, donc qui est beaucoup plus joli. Et donc voilà que ça fonctionne vraiment très bien.
Et ça fonctionne très bien.
Voilà.
Donc par contre, sur ton vieil ordinateur, tu as quand même un lecteur de CD-ROM.
J'ai un lecteur de CD-ROM.
Voilà.
Le problème c'est que je pouvais pas installer ni de Mandrake ou autre version comme ça parce qu'elles sont beaucoup trop lourdes. Donc il fallait absolument que je trouve une mini distribution Linux. Mmh. Et là, c'est vrai que l'Adreno Linux est vraiment super. En plus, elle est francisée. Donc
d'accord.
Je tiens à le dire à tous les gens qui sont un peu allergiques à l'anglais.
Oui.
Tous les logiciels sont francisés. Après, par contre, pour ce qui concerne la ligne de commande, bien entendu, bon là, c'est les termes, enfin, anglais, quoi. Mais bon, c'est pas très sorti.
C'est la ligne de commande un petit peu Unix.
Voilà.
Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a des termes, mais une fois qu'on les sait, ça ne pose aucun problème.
Et je tiens à préciser que donc c'est Jean-Philippe Pierce qui a créé ça. C'est un radio amateur français. Et donc il a fait une documentation qui est fournie avec, très détaillée, sur toutes les commandes. Donc il suffit, comme a dit un camarade d'un Lug, parce que moi-même je suis en train de monter un Lug sur la ville de Fresnes.
Oui, bien joué, dit Elira.
J'ai vu un petit peu. Donc Et donc, comment dire, voilà, c'est très bien détaillé, quoi. Donc, alors, il n'y a vraiment pas de souci.
Je me permets de donner l'adresse de ton site à l'antenne, puisque tu nous l'as communiqué, hein. C'est pour justement voir la configuration de ton ordinateur, puisque j'y suis allé. C'est toi aussi, ah bon.
Non, je dis c'est gentil, merci.
Ah, pardon, oui. C'est http://toshiba.linux.site.voila.fr.
Voilà.
Voilà, c'est voilà. Et sur le site de Knupix, tout simplement http://knupix.wireless, tout simplement pour les accès sans fil, wireless.site.voila.fr. Alors, pourquoi ce site? Je n'ai pas eu le temps d'aller voir, mais je te laisse peut-être nous l'expliquer un petit peu, puisque oui, tu en parles.
C'est-à-dire que donc j'ai deux ordinateurs. Enfin, là, actuellement, j'en ai qu'un, mais je veux dire, j'en ai un fixe sur lequel j'avais utilisé Knupix au début, donc, pour découvrir justement Linux.
Oui.
Et ça m'a tellement plu que je l'ai installé directement sur le disque dur. Donc, j'ai installé une version Knupix 3.2 MIB, donc c'est une version francisée, et c'est côté sécurisé aussi. Donc j'ai installé ça dessus. Et c'est vrai que comme je suis wifiiste aussi, je fais du wifi sous Windows, mais je voulais aussi en faire sous Linux. Et je voulais un peu aider les gens.
Tu as expliqué la manipulation.
La configuration réseau. Cela dit, qui est pas uniquement que pour le wifi, hein, c'est valable aussi pour un réseau LAN ordinaire. Hein. Mais je veux dire, il y a des gens qui, justement, comme un collègue disait tout à l'heure, au niveau des documentations, les gens les lisent pas tout le temps.
Oui.
Ou alors il y a tellement de documentation que les gens sont perdus.
Sont perdus un peu, et c'est très vrai sur les documentations justement Linux où il y a un monceau d'informations et on n'a pas toujours l'information complète d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'on a un petit bout d'explication et il faut chercher le restant ailleurs.
Voilà. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé moi là pour mon vieil ordinateur.
D'accord.
Pour configurer l'écran, que j'ai cherché un petit peu sur Internet. Mais bon, après, enfin. Quand on est vraiment déterminé à raisonnablement, on arrive toujours à trouver l'information qu'il faut.
Oui,
et puis je répète aussi, je m'excuse, n'hésitez pas à contacter les LUG.
Voilà, absolument. Et puis,
des bénévoles, des volontaires qui sont là pour vous aider, pour vous faire découvrir les logiciels libres. Et donc, voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur de pouvoir les contacter.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là spécialement pour ça, mais ce sont des passionnés. Voilà. Et qui ont à cœur de faire partager leur passion à tout le monde.
Voilà. Ouais, et puis parler de Linux, on peut en parler jusqu'au bout de la nuit.
Voilà, absolument.
Entre nous, ça dure. Nous, après les réunions, on se retrouve, on est devant la porte et on continue à parler.
Et le retour,
on se retrouve des fois, c'est minuit moins quart.
Voilà,
on est encore en train de causer.
C'est une bonne occasion de retrouver de bons copains et de passer un bon moment ensemble. Hein?
C'est ça aussi.
Voilà, exactement.
Bon, pour en revenir à Drinou Linux.
Oui.
Moi, j'ai lu le forum, hein, donc c'est là que j'ai vu que Vincent avait réussi à installer une Drinou Linux.
Oui.
Et donc moi, en cherchant, j'ai trouvé que, en fait, elle est plus maintenue.
D'accord.
Son remplaçant, c'est Pitux.
Voilà, elle a changé de nom.
Ouais. Alors c'est quel nom dis-tu?
Pitux.
Ça s'écrit.
Ça s'écrit P point d'exclamation Tux.
Point Pitux.
P314 quoi.
Ah oui Pitux. Pitux.
Voilà.
Et l'adresse on la trouve sur le forum de RIM.
Alors donc sur le forum de RIM.
Donc le forum c'est aussi utile pour ça. Hein. On peut poser ses questions. Et
absolument. Oui. C'est fait pour le forum également. Hein.
Donc, voilà.
D'accord. Eh bien, merci Vincent d'avoir participé à notre émission. Merci.
Bonne chance pour la création de l'UG.
Merci.
Merci.
Et puis, oui, bonne continuation. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de Linuxiens dans ton LUG que tu comptes monter prochainement.
Est-ce qu'il y a moyen de donner l'adresse, par hasard? Ou est-ce que je la diffuse sur le forum
Écoute, on peut la donner à l'antenne et puis tu la donneras après, mettras sur le forum.
Voilà.
Ouais, faut toujours laisser une trace écrite quelque part.
Bien sûr, parce qu'on oublie autrement.
Je la donne là à la radio et puis
tu peux la donner.
Après, je me reconnecte sur Internet puis je mettrai un petit mot, voilà.
Ok.
Alors c'est HTTP.
Oui.
Deux points, enfin c'est l'autre.
Oui.
/.
Oui.
Frenux. FRES. NUX.
Oui.
Gul. gul.site.voila.fr, comme les deux autres.
D'accord.
Voilà. C'est le site provisoire. Après, bah, j'appelle les volontaires de Fresnes et des environs, hein, s'il y a des gens des communes alentours qui veulent venir. Il n'y a pas de problème parce que, actuellement, on est le seul LUG,
oui,
réellement ouvert au public du Val-de-Marne. Parce
d'accord.
qu'il y en a deux autres, mais elles sont réservées à des étudiants des écoles EPITA et je sais plus de l'autre.
Oui.
Donc, ouais, ce qui fait que les gens ne peuvent pas se rendre comme ça spécialement.
Comment dis-tu, Elira?
C'est peut-être un autre niveau techniquement.
Il
s'adresse plus à des gens techniciens.
Ça,
oui.
Mais bon, l'important aussi, c'est quand même que les gens, les simples citoyens, puissent avoir accès au logiciel.
Ah oui, ça c'est
donc,
sûr.
Donc voilà, il était important quand même d'essayer de faire quelque chose.
Voilà, l'important est de faire découvrir aux non-initiés de manière à en faire justement après des initiés.
Voilà.
Ben, nous, c'est ce qu'on fait et je pense que c'est ce que tu feras, Vincent. Mmh. Hein.
Ben, on va faire pour.
Ouais, ben, je te souhaite bonne chance.
Eh bien, merci.
Et sinon, mon camarade, là, qui a la radio, je suis actif sur la liste Interlug, que tu dois connaître.
Ouais, je suis abonné, mais bon, comme en ce moment, je développe un truc de gestion de membres, qui s'appelle GEM. Mmh. Des fois, j'ai pas trop le temps de traîner, quoi.
Bah oui, voilà.
Pas l'occasion, hein, voilà.
Mais bon, j'irai voir ton site du LUG et je l'inscrirai dans mon blog à moi et puis bon on fera sûrement un billet sur notre site alpinux.org.
Voilà, de manière à s'entraider un petit peu et à
se
faire découvrir.
S'entraider entre LUG.
Tout à fait.
C'est collaboratif, mais bon, j'aime pas bien ce mot.
Oui, ça fait curieux. Ça fait curieux. Bon, eh bien, merci Vincent.
Ben, merci. Hein.
Bon après-midi.
Merci de même.
Merci.
Et puis, à bientôt, j'aurai sûrement l'occasion de rappeler.
Voilà. Ok, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Je rappelle pour tous ceux qui ont un petit problème de micro-informatique que vous êtes sur Radio Ici et Maintenant dans l'émission de la micro-informatique du samedi après-midi entre 14h et 16h. Donc, il nous reste encore une bonne demi-heure à passer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les à l'antenne, nous y répondons. Surtout que nous avons également à l'antenne aujourd'hui un spécialiste donc Linux qui pourra vous donner des conseils pour une installation, pour un dépannage, pour une application quelconque qui ne veut pas fonctionner sous Linux. C'est le moment, Linuxien, de poser vos questions. Nous avons Elira en ligne. Alors, Elira, j'en ai parlé la semaine dernière et les semaines d'avant. Pour ceux qui justement ne connaissent pas trop ou veulent découvrir tout seul Linux un petit peu, le mieux c'était donc d'installer une distribution Mandrake, puisque maintenant on a la Mandrake 10.1, je crois, ou .0, je ne sais plus combien. Et justement, dans une revue qui s'appelle Compétences Micro, il y avait un petit fascicule d'une centaine de pages qui s'appelait Compétences Initiation Micro Linux à vos marques préparées. Eh bien, c'est un petit fascicule qui vous explique pas à pas l'installation de la Mandrake 10.0. Vraiment pas à pas, et qui vous montre comment utiliser, quelles sont les commandes en ligne, les premières commandes, celles que vous allez utiliser, comment créer un texte, comment créer un nouveau fichier, où l'installer ce nouveau fichier, dans quel répertoire, et puis qui vous montre comment utiliser bien sûr une partie de d'OpenOffice, puisque OpenOffice fait partie de Linux, et puis également une petite explication sur le graphique avec The Gimp, qui est un logiciel de graphisme et de traitement de photos. On peut dire ça, hein, Elira.
C'est l'outil, je dirais, avec un L majuscule.
Voilà.
de graphisme, on fait tout avec The Gimp.
Voilà. Alors, ça déroute un petit peu les habituels.
Ah oui,
c'est
une interface différente, faut penser autrement.
Voilà. Ce sont des menus flottants qui s'installent là où vous voulez.
Ouais, mais on peut regrouper ça dans l'interface graphique quand on commence à avoir un petit peu l'habitude. On peut regrouper ça directement dans la première fenêtre de The Gimp.
Oui.
Et on a tout dans des onglets.
D'accord. Exactement comme sur un Adobe Photoshop, par exemple, ou PaintShop Pro, qui sont des
oui,
standards
mais ça,
d'utilisateur.
Ça ressemble pas à ça, quoi.
Mais c'est, ça, voilà. Mais
c'est
ça
la
ne
même chose.
Pas.
Oui. C'est pensé autrement.
Voilà. Mais on peut faire absolument tout comme sur Adobe.
Ah, bien sûr. Ouais.
Comme sur
PaintShop Pro.
Sauf, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé les filtres sur The Gimp.
Moi j'ai une image, faudrait rechercher sur rafistolet.org.
Oui.
Faut rechercher, je sais plus quel billet j'ai écrit, et il y a une image faite avec The Gimp.
D'accord.
En suivant pas à pas une procédure.
Oui.
C'est un fond d'un, ça pourrait faire un fond d'écran sous-marin.
D'accord.
Et sur l'image, il n'y a rien qui existe, en fait. Le seul truc qui existe, c'est la montagne en fond et les plongeurs. C'est des photos, ça.
Oui.
Le reste, c'est créé par le logiciel, avec les outils du logiciel.
D'accord. D'accord. Alors, donc, je parlais de cette petite revue qui peut vous permettre de comprendre comment fonctionne Linux. C'est, cette revue, c'est « Compétences initiation micro ». Et le titre de ce fascicule, c'est Linux à vos marques préparées. Sachant que dans cette revue, il y a à la fin un bon de commande pour pouvoir commander les fascicules que vous n'avez pas ou qui vous intéressent, sachant que le prix dépasse rarement 6 euros. C'est vraiment les prix maximum, et il y a tout un tas de manuels qui vous permettront de découvrir différentes applications, dont justement Linux, puisqu'il est sorti ce document sur Linux. Alors, je vois qu'on m'a noté d'épeler le nom Dream. Alors Dream, c'est D-R-E-A-M. Et rappeler où ça se trouve. Alors, je ne sais pas de quoi on parlait à ce moment-là, mais je rappelle le nom Dream, D-R-E-A-M. Oui, c'est mystère. Je sais plus de quoi on parlait. Donc, on va continuer avec Windows ou Linux, suivant comme vous voulez et comme vous appréciez votre logiciel. Mais puisqu'on est parti sur une émission un petit peu Linux, on va continuer un petit peu sous Linux, mais par contre Linux avec Windows. Alors Elira, des postes par exemple dans un bureau tout simplement d'une entreprise, on sait bien qu'il y a différents systèmes d'exploitation dans une entreprise. Il y a du 95, il y a du 98, il y a du Millennium, il y a du XP, il y a du 2000 Pro, et tout ça en bonne communication souvent. Alors, est-ce qu'on peut ajouter un poste Linux tout simplement en réseau avec les autres et pouvoir échanger des fichiers entre un poste Linux en réseau et un poste Windows en réseau?
Oui, bien sûr, on peut. Il y a un serveur, c'est Samba. Samba permet de discuter avec 95, 98, XP.
D'accord. Alors, sur une distribution Linux, on est obligé de l'installer à part, ou bien est-ce que ça s'installe au démarrage?
C'est un serveur. En fait, c'est un package qu'on installe. Et
d'accord.
Il est installé. Faut configurer le fichier, donc il y a un fichier de configuration à lire.
Oui.
Avec souvent c'est commenté. D'ailleurs, c'est très bien commenté.
Oui.
Et bon, on apprend comment ça marche en plus.
Oui.
Et on configure ça, et ensuite, ben, on a accès à tous les postes, quoi. Tout le monde peut se causer.
D'accord. Alors, si on configure une distribution Mandrake.
Ouais, c'est la plus simple. Hein.
C'est la plus simple. Hein, c'est celle que tout le monde peut utiliser et surtout installer
oui,
facilement.
Oui, parce que Mandrake a fait un super boulot.
Voilà, exactement. Oui, je. D'ailleurs, je tiens quand même à le souligner par rapport à une Debian ou par rapport à une Slackware, c'est quand même la facilité d'installation pour un débutant.
Ouais, malgré que Debian, ils sont en train de préparer quelque chose qui rendra plus facile l'installation.
D'accord. Mais pour le moment, on peut dire que c'est quand même la Mandrake qui marque le point pour une installation, je dirais, standardisée un peu.
Ouais, sur un PC standard, ouais, ça va. Par exemple, moi, j'ai un vieux portable aussi.
Oui.
C'est un Pentium 120 avec que 16 MB de RAM.
Oui,
je
connais.
Et un petit disque dur de 1,2 Go.
Oui.
Et donc, moi, j'ai décidé d'installer une Debian, mais bon, là, il faut faire des choix.
Ah, absolument.
Donc, il faut vraiment
oui.
connaître les packages qu'on va installer.
Oui.
Donc, on fait vraiment son choix. Et après, ben, on a une distribution Linux qui fonctionne très bien.
Mm-hmm. D'accord.
Même avec 16 MB de RAM.
Même avec 16
ouais,
MB de RAM.
Ouais, là, je lance une interface graphique très légère.
Mm-hmm.
Et en fait, j'utilise Blackbox comme interface graphique.
Oui.
Sur mon portable.
Oui.
Par contre, sur ma machine pour travailler, j'utilise Fluxbox. C'est une interface graphique qui permet de gérer les applications en onglets.
D'accord.
Comme dans Firefox, il y a des onglets, on peut ouvrir des onglets.
Oui.
Et ben là, avec Blackbox, on gère des groupes d'applications. Par exemple, moi là, j'ai une fenêtre, j'ai toutes mes fenêtres qui sont mises sous forme d'onglets.
Oui.
J'ai le chat et j'ai mon home et puis mon gestionnaire de fichiers et puis une console.
D'accord.
Dans un groupe. Ça permet que quand on clique sur la barre de menu, ou on double-clique sur la barre de menu, ça cache tout.
D'accord.
On n'a pas 45 ou 50 fenêtres les unes sur les autres.
D'accord, oui.
Quand
oui.
on fait une recherche avec Internet Explorer sur le net.
Oui.
Pour parler un peu de Firefox, tiens.
Oui. Par exemple,
quand on fait une recherche sur Internet,
oui,
on a notre page de recherche et si on veut pas la perdre, l'avantage avec Firefox, c'est qu'on ouvre un onglet.
D'accord.
Et on a toujours notre recherche, donc on a un gain de
place, d'accessibilité.
Oui, voilà, d'accessibilité et même c'est plus rapide.
Okay.
Une fois qu'on a pris l'habitude de travailler avec des onglets, on devient plus productif.
Bien sûr, ça va beaucoup plus vite.
Exactement.
Alors, on accueille Vincent tout de suite, qui a sûrement une question à nous poser, et on reprend notre petite discussion après.
D'accord.
Vincent.
Bonjour Richard.
Bonjour Vincent.
Simplement la question pour épeler le nom, c'est pas Dream. Tout à l'heure, un copain a dit qu'il avait trouvé pour son portable ancien Toshiba une version qui s'appelait quelque chose comme Dream ou Drinu Linux 1.8. C'était pour demander que tu épelles le nom exact de cette version et sur quel site il l'avait trouvé.
D'accord. C'était j'ai pas.
Essaye de voir dans le forum.
Oui, il va falloir.
Non mais je suis pas raccordé.
D'accord. Oui, parce que là, je n'ai pas de.
Parce que c'est très intéressant ce qu'il nous donnait comme indication et j'ai essayé de noter. Ça ressemblait à Dream Linux 1.8, mais il n'y avait ni le site ni l'orthographe exact.
Alors non, c'était Drinu Linux 1.8.
Voilà. Voilà. Ça s'écrit comment?
Alors Drinou.
Oui.
Tiret Linux.
Oui.
1.8.
Linux 1.8, d'accord.
Et alors, le site où c'était, alors, pour voir l'installation, c'était http://.
Oui.
Toshiba.
Oui.
.linux.
Oui.
.site.
Oui.
.voila.fr.
Très bien, je te remercie.
Voilà.
Bonne continuation et merci pour tout. Au revoir, Richard.
Merci, Vincent. Au revoir.
Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a un autre Vincent qui citait que Drinu Linux avait été remplacé par Pitux.
Voilà, exactement. Donc, oui, et du coup, je ne savais plus où j'en étais, là.
Et donc, l'adresse de Pitux, c'est http://.
Oui.
217.109.169.18/.
Pitux.
Pitux,
tout simplement.
P-I-T-U-X. Sinon, ça s'écrit P, point d'exclamation, tux.
Voilà. Ok. Voilà pour les explications, puisque la Drinu Linux ne se trouve plus sur le site d'origine. Hein.
Mais bon, ça, c'est accessible dans votre forum. forum de RIM.
Voilà, exactement, oui, oui. C'est accessible au forum.
Ouais, un peu de pub pour le forum, ça fait pas de mal.
Bien sûr. Et puis, il faut y penser à aller faire un petit tour sur le forum. Le forum, c'est fait pour discuter et pour trouver justement des informations que l'on n'a pas forcément retenues et dont on a parlé.
Ouais, exactement.
Voilà. Alors, on va continuer. Donc, on était en train de...
Claude nous a rejoint.
Ah, Claude nous a rejoint. Alors, on continuera un petit peu après. Bonjour, Claude.
Bonjour, bonjour Richard, bonjour Elira. Je m'excuse de vous couper, mais enfin j'allais parler de Mozilla Firefox.
Oui, bien sûr, et bien c'est une bonne idée.
Sous Windows XP et j'ai installé dernièrement Mozilla Firefox.
Oui.
Alors j'ai bien lu sur dans un article d'un magazine que bon il se substituait parfaitement à Internet Explorer.
Oui.
Mais je voulais savoir si dans le cadre d'une réinstallation par exemple de Windows XP il fallait mettre à jour totalement Internet Explorer avant d'installer Mozilla Firefox, ou si on pouvait installer Mozilla Firefox directement sans avoir de problème par la suite de sécurisation, disons, du logiciel.
Non, parce que Firefox, c'est un logiciel indépendant de l'installation d'Internet Explorer. C'est un visualiseur de pages web sécurisé, mais ça ne fait pas partie de Microsoft. Donc, même si tu ne mets pas à jour ta version d'Internet Explorer, ça ne pose pas de problème si tu ne te sers pas d'Internet Explorer.
D'accord.
On est bien d'accord. Donc, tu l'oublies, tu supprimes tous les raccourcis d'Internet Explorer,
oui,
parce que de toute façon, on ne peut pas supprimer Internet Explorer.
Oui, ben c'est ça.
Sinon,
le problème,
tu n'arriveras pas à faire fonctionner ton logiciel de visualisation de pages web correctement.
D'accord.
Donc, tu ne supprimes pas Internet Explorer, mais par contre, tu ne l'utilises plus. Et dans ce cas-là, la seule chose que tu auras à faire, c'est de mettre à jour Firefox quand il y aura une nouvelle version, évidemment.
D'accord, hein, effectivement.
Pour tout ce qui est sécurité ou patch ou correctif.
Oui, pourra même installer les plugins qui vont bien.
Exactement. D'accord. Exactement. Tu penses.
Tu vas pas regretter.
Voilà.
Donc oui, et puis effectivement, ça évitera d'avoir toutes les mises à jour d'Internet qui ne font qu'alourdir, l'occupation du disque dur.
Oui, enfin, Internet, c'est pas ce qui prend beaucoup de place. C'est tout l'ensemble Windows qui prend de la place. Mais franchement, non, ça alourdit pas trop. Ça ne fait que réactualiser un logiciel qui a des failles de sécurité. Malheureusement, avec l'utilisation de l'Internet maintenant, on se rend compte que il faut absolument protéger son ordinateur. Et d'ailleurs, sous Linux, c'est exactement la même chose. On fait aussi des mises à jour et on fait aussi des patchs pour corriger certains défauts. C'est normal. On ne peut pas sortir directement un système ou un logiciel qui fonctionne parfaitement et qui n'ait aucun défaut tout de suite.
Mmh,
ça n'est pas possible parce qu'on se rend compte à l'utilisation qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont pas tout à fait comme on avait pensé. Et donc, on met automatiquement à jour ce logiciel. Tous les logiciels se mettent à jour. Hein. Un logiciel qui n'est pas mis à jour, c'est un logiciel qui est obsolète déjà à sa sortie.
D'accord.
Voilà. Donc on n'alourdit pas, on fait que rééquilibrer un logiciel de manière à ce qu'il fonctionne mieux.
D'accord.
Voilà.
Par contre, alors moi je l'ai utilisé un peu. Bon, j'ai été obligé de faire une réinstallation. La différence avec Internet Explorer, c'est que moi j'aimais bien la barre d'outils Google qui venait se rajouter en dessous de la barre d'outils d'Internet Explorer et je n'ai pas eu le temps réellement de fouiller tous les réglages de Firefox.
Oui.
Mais apparemment, pour accéder à Google, ça se fait avec un onglet et je n'arrivais pas à retrouver la possibilité, comme quand on utilise Google avec Internet Explorer, c'est-à-dire d'afficher des pages complètes, c'est-à-dire de saisir un mot dans le moteur de recherche de Google et d'avoir l'affichage de pages complètes qui pouvaient concerner, disons, la recherche.
D'accord. Donc, alors, Elira, si tu as une idée là-dessus, est-ce que tu peux conseiller donc Claude pour ce genre de problème de barre d'outils Google ?
Ben, je pense qu'il, déjà, il peut personnaliser son menu.
Oui.
Et ajouter, il y a un onglet et il y a un cadre et on peut faire des recherches directement depuis le navigateur.
D'accord. Donc, dans Firefox, l'essentiel étant de, non pas de le personnaliser à la façon Microsoft, mais de le personnaliser à la façon Firefox.
Ouais,
autrement dit, c'est différent.
J'ai bien retenu la leçon
voilà.
De l'IRA. C'est dire le mode d'emploi qui a la chance d'être en français, effectivement, mais j'avais pas vraiment eu le temps de fouiller toutes les choses.
D'accord.
Alors, excuse-moi de te
couper. Oui, vas-y.
J'ai une autre petite question. J'ai donc fait une réinstallation à partir d'une image disque.
Oui.
Donc, je retombais avec Internet Explorer, Outlook Express, pardon, tel que je l'avais fait auparavant.
Oui.
Et de temps en temps, quand je veux lancer Outlook Express, ne serait-ce que pour vérifier mes mails,
oui.
J'ai un message d'erreur qui s'affiche et qui m'indique que j'ai un fichier qui est peut-être mal installé ou manquant. Et ce fichier, c'est un fichier DLL qui s'appelle msoe.dll.
Oui. Alors msoe.dll, c'est installé effectivement avec Internet, avec Outlook.
Alors le problème, c'est que moi, je l'ai ce fichier.
Oui, mais il fonctionne mal.
Il fonctionne mal.
Et
je voulais
même...
savoir. Alors bon, le plus souvent, il me faut éteindre l'ordinateur, le relancer, et là, ça fonctionne. Mais j'ai le fichier, je l'ai dans la base de registre, j'utilise un petit utilitaire qui s'appelle RexSeeker, et qui permet de faire des recherches tant dans les fichiers, un peu comme l'outil de recherche de Windows XP, mais également de faire des recherches dans la base de registre, et à chaque fois, il m'indique bien que les fichiers DLL, ils sont présents, et ils ne sont pas, je veux dire, nuls au point du...
au point de vue du taille.
Et pourtant, ça ne marche pas.
Oui, mais... peut-être qu'il y a une partie de ce logiciel, de ce fichier, pardon, qui est endommagée ou qui n'est pas tout à fait lisible et du coup, ça fonctionne mal. Alors, un conseil, puisque tu es passé à Firefox, pourquoi ne pas utiliser Thunderbird, qui est tout simplement un logiciel de messagerie?
Je connais les deux, j'ai effectivement téléchargé les deux, et puis j'avais pas installé Thunderbird.
Alors, je crois qu'Elira, Elira parlait en même temps que toi, donc il a fait un brouhaha, mais si tu veux bien répéter, Elira.
Ah, je disais que Outlook, c'est une passoire.
Voilà.
Et que autant utiliser un logiciel libre.
Oui.
Comme Thunderbird.
Voilà.
D'ailleurs, si on veut des infos sur Firefox, Thunderbird, et les formats de fichiers ouverts,
oui.
Il y a un bon blog, c'est le Standblog, standblog.org.
Alors en un seul mot, Standblog.
Ouais, standblog.org. C'est le blog de Tristan Nitto.
D'accord.
Tristan Nitto, c'est le président de Mozilla Europe.
D'accord. Donc.
Et donc là, on apprend beaucoup de choses et d'ailleurs l'arme préférée de Tristan Nitto, c'est la clé USB. Parce que dans une clé USB, on met le package d'OpenOffice, de Thunderbird, de Firefox, et quand on arrive sur un poste où il n'y a pas ces outils, on fait et paf la clé.
Voilà, exactement. Et c'est très pratique. Moi, j'ai tous ces outils sur un CD-ROM gravé.
Ah oui, par
exemple. Parce que, il y a des vieux postes où il n'y a pas la possibilité sous 98 de mettre une clé USB si on n'a pas un pilote pour installer cette clé. Et donc, l'avantage, c'est qu'un CD-ROM gravé, eh bien, en général, c'est lisible sur un lecteur de CD-ROM tout simple. Et on peut installer à partir de là OpenOffice.org, Thunderbird et Firefox ou Mozilla, peu importe. Mais tout ça, ça peut s'installer très facilement lorsque, par exemple, Internet Explorer ne fonctionne plus pour une cause ou une autre. Que la messagerie c'est pareil, eh bien on installe ces outils et là du coup on a une page internet qui s'affiche très facilement avec Mozilla ou Firefox et puis un logiciel de messagerie comme Thunderbird ou sur lequel il n'y a aucun problème.
Ouais.
Voilà pour les explications.
Voilà, ben je vous remercie. Puis je vois qu'on a lancé la croisade anti-Bill Gates.
Ben c'est pas vraiment une croisade.
Non, je sais bien, c'est pour blaguer.
C'est pas vraiment une croisade parce que les deux sont utiles. Ouais. Et il faut reconnaître que sans Bill Gates, on n'aurait peut-être pas progressé comme on a progressé jusque-là.
Oui.
Hein, parce qu'il nous a permis d'avoir une informatique, je dirais personnelle, assez rapidement, même s'il y avait plein de trous dedans, ça a permis de comprendre, de développer, d'utiliser, et maintenant nous passons à autre chose. Mais c'est pas forcément, ça n'a pas forcément été mauvais. Voilà ce que je veux dire.
Non, oui, bah oui, si j'avais dû commencer, bon, j'ai pas de compétences informatiques particulières, mais si j'avais dû commencer avec un outil probablement moins convivial que XP, il est probable que ça aurait été beaucoup plus difficile, quoi.
Voilà, exactement. Mais par contre, une fois la découverte effectuée, eh bien, on peut passer à des choses plus intéressantes, plus qui te permettent une utilisation de l'informatique plus personnelle et également une découverte à ton rythme et surtout une découverte de l'informatique complète, et non pas d'un logiciel.
Oui, il faut dire aussi que tous les Linuxiens avant, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils utilisaient Windows, hein.
Mais absolument.
On y est tous passés.
Voilà.
Donc après, ben, il y a un passage, mais ça se fait assez rapidement, en fait.
Oui.
Ça se passe rapidement. Il suffit qu'on ait vraiment, on se rende compte que petit à petit, ben, on boot plus sur Windows. Ben, on se dit, ben, tiens, tout cet espace, je vais le récupérer, quoi.
Voilà, exactement.
Mais bon, ça, c'est au bout d'un certain temps, c'est
oui,
sûr.
Quand même. Oui, quand même. Oui.
Moi, il y a que 3-4 ans que j'utilise plus du tout Windows. C'est normal, quoi.
Bien sûr, une fois que l'on a choisi son système, bah pourquoi utiliser un autre qui plaît moins ? Pourquoi continuer à avoir de l'espace disque utilisé qui ne sert pas ? Surtout que les disques sont pas quand même gigantesques, surtout sur des machines un petit peu anciennes. Donc, autant libérer cette place.
Ouais, alors, exactement.
Voilà. Alors, il nous reste encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Alors, on parlait justement de l'installation d'un poste, par exemple, dans une petite entreprise Linux et de poste Windows, quelles que soient les versions. Alors, on a dit que Linux, avec un utilitaire tel que Samba, qui permet justement de voir les ordinateurs qui sont connectés également sur le...
Oui, ça permet de partager les données.
Voilà. Ça permet de faire un partage. Alors, si Linux voit bien les autres ordinateurs, est-ce que les autres ordinateurs sous Windows, puisque dans les entreprises, l'essentiel, c'est le parc Windows, est-ce que les autres postes sous Windows voient Linux ? Parce que ça peut être justement...
En utilisant Samba, oui.
En utilisant Samba.
Oui.
Mais alors, en utilisant Samba sur Windows ou Samba...
Oh, non, c'est un serveur. Le serveur est installé par exemple sur la machine A,
oui.
Et la machine B, c'est un poste Windows.
D'accord.
Et du poste Windows, on se connecte sur la machine A.
D'accord.
Sans plus de comment ? Il y a pas de logiciel client à installer sur le poste Windows.
D'accord. Donc ça marche.
Ça passe à travers les tuyaux, quoi.
Voilà, ça passe à travers les tuyaux sans problème, l'eau coule à flot. D'accord, Elira. Alors, on a un petit message sur le chat de Vargas qui nous demande que signifie le message erreur de protection Windows, système arrêté sur Windows Millennium, bien sûr, et il doit sans cesse reformater son PC. N'y a-t-il rien d'autre à faire ? Voilà une bonne question sur Windows. Alors, c'est pas forcément Windows qui est en cause, d'ailleurs. Hein.
Oui, ça peut être un problème matériel.
Voilà, ça peut être ce genre de problème et vient souvent d'un matériel défectueux, que ce soit une barrette mémoire, que ce soit un disque dur qui a des clusters défectueux, que ce soit un microprocesseur qui a des moments d'arrêt, je dirais, ou des moments de flux qui diminuent. Et le fait de reformater le PC ne changera rien. Je pense que de ce côté-là, il faut réellement chercher la panne. Alors, chercher la panne, eh bien, ça suppose d'avoir des composants en double pour pouvoir tester, ou tout au moins une autre machine à côté pour pouvoir tester un par un les composants qui viennent de l'ordinateur défectueux. Ce genre de panne, très difficile à trouver, parce que sur un ordinateur, il y a une multitude de composants, dont la carte mère elle-même qui peut avoir quelques petits problèmes. C'est pas forcément toujours le microprocesseur qui est en cause. Ça peut être également la carte mère. Répondre à une question comme ça...
Il y a Olaner qui a donné une bonne URL, il me semble.
Oui, alors, là, j'ai plus rien à l'écran, donc si tu veux bien nous la donner.
Il dit la réponse, elle est là, http://www.test. Je la donne, elle est sur le chat, de toute façon, l'URL.
Oui, alors, si j'arrive à voir le chat...
On est sur ça, moi.
Non, moi, j'ai pas le... Ah oui. Alors, là...
C'est le site d'URL, je viens de la balancer sur le chat.
thesiteweb.net/module/wffag/article.php. Voilà, on l'a donc
C'est pas G.
Pardon.
WFFAG,
non ?
Non, il me semble que c'est un Q.
Ah, peut-être. Ça passe tellement vite que... Oui, c'est un Q.
C'est un Q.
WFFAQ. Slash article. Ça passe tellement vite qu'il faut récupérer à chaque fois l'adresse. Ça devient assez problématique. Voilà, donc si vous avez un problème, thesiteweb, en un seul mot, .net, /module/WFFAQ. Ah oui, c'est normal. WFFAQ, c'est vrai.
Oui, c'est la FAQ.
Voilà, la FAQ, tout simplement. La Frequent Asked Question, pour les anglophones. Voilà. Et là, vous trouverez les problèmes qui peuvent surgir sur certains modules de votre ordinateur. Mais enfin, ça ne résout pas le problème. Après, il faut tester pour savoir quel est celui qui ne fonctionne pas bien. Voilà.
Voilà.
Alors, il nous reste 5-6 petites minutes. On a encore une question qui vient donc sur contact@nso.com. Pourquoi, pour un même site, il y a des différences d'affichage entre Internet Explorer et Firefox ? Ah, voilà une bonne question. Une très très bonne question, n'est-ce pas, Elira ?
Bah, c'est, à mon avis, c'est parce qu'il y en a un, Firefox, qui supporte exactement les standards.
Oui.
Et que IE, il fait un peu ce qu'il veut, quoi.
Voilà, il affiche ce qu'il veut.
Comme dit Zachiel par derrière.
Oui, mais c'est très vrai. D'ailleurs, on s'en rend compte lorsqu'on construit une page web et qu'on essaye de l'afficher sur par exemple un ordinateur qui est sous Microsoft avec Internet Explorer, et puis qu'on en a un autre portable avec Macintosh et comme logiciel de visualisation de page web, on a sous System 10, le nom ne revient plus. Le logiciel de navigation de Macintosh. Là, on s'aperçoit, par exemple, que pour un même site, eh bien, les pages sont quelquefois décalées, ne sont pas présentées de la même façon. Eh bien, tout simplement parce que si on fait un site sous Microsoft avec des logiciels Microsoft, on n'est pas sûr d'avoir un affichage correct sur Firefox, par exemple, ou sur Macintosh.
Oui, mais quand on construit un site, avant de le mettre en ligne, il faut le faire vérifier par le W3C.
Alors,
on peut le faire valider ou pas. C'est pour voir si le code est vraiment accessible à tous.
Ah, d'accord.
À tous les navigateurs, pardon.
À tous les navigateurs.
Voilà.
Donc, il faut aller sur W3C.
Généralement, il y a dans les sur les sites qui sont valides, ils mettent un bouton.
Oui.
Qui permet de valider le XHTML, les CSS.
D'accord.
Et on clique sur ce bouton et on retrouve l'adresse. C'est validator.
Oui.
Les sous les yeux. .w3.org/check.
Slash check.
Ouais.
T-C-H-E-K.
T-H-E-K, voilà. C-H-E-C-K, pardon.
T-C-H-E-C-K, oui. Exact.
Et donc, check. Et là, ça permet de faire, de vérifier si ces pages seront compatibles à tous les navigateurs.
D'accord.
C'est comme le W3C, c'est eux qui ont créé le HTML.
Mmh. Oui,
donc,
c'est
bon. Oui, il fallait harmoniser. Comme
voilà. Bien sûr, parce que
il fallait harmoniser pour que tout le monde, tous les navigateurs puissent lire la même chose.
Exactement.
Sinon, on se retrouve avec plus un seul web. On se retrouve avec un, deux ou trois webs.
Oui, tout
trois,
à fait.
Trois réseaux différents.
Tout
donc,
à
ça
fait.
Ça devient restreint au lieu de mettre tout le monde ensemble. On restreint le nombre de gens
qui pourront voir le site correctement. Exact. Alors, donc on a répondu à cette question qui était posée sur notre qui était envoyée en message sur contact@nso.com. Là, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Il nous reste 3-4 minutes, donc 3-4 minutes pour nous permettre de vous remercier d'avoir participé tous à cette émission. Merci à toi, Elira, d'y avoir participé aussi en direct. C'était très sympa.
Bah, c'est le plaisir, il est pour moi.
Et puis nous avons pu donc par ce biais pouvoir discuter un petit peu plus Linux cette semaine,
ouais.
Tout en acceptant quand même les explications
bien
pour
sûr.
Les utilisateurs de Windows.
Bien sûr, parce qu'il en faut pour tout le monde.
Voilà. Alors, on leur a donné quand même quelques possibilités d'utilisation d'une première distribution Linux. Alors, on va conseiller quand même la Mandrake, peut-être.
Ah oui, hein, parce que la boîte Mandrake a fait vraiment du bon boulot.
Oui.
Et il y a un outil d'installation qui est vraiment super facile à utiliser.
Oui, il est vraiment très graphique.
Ouais.
Et je pense que les utilisateurs Windows ne se perdront pas dessus.
Moins que sous avant dans le temps de la Red Hat où c'était tout en ligne de commande.
Oui, bien sûr. Oui.
Là, graphique.
Là vraiment
tout
c'est.
Ça rebutait quoi.
Oui. C'était plus difficile pour un non initié
ouais.
d'utiliser ce genre de mise en route. Alors que là, c'est vraiment très très facile.
Ouais.
Et puis également, on va leur donner quand même l'adresse de knupix.org. Alors ça s'écrit knupix.org pour pouvoir justement acheter en ligne acheter, vous envoyez le bon de commande et le chèque, donc ça n'est pas un achat en ligne avec carte bleue. Là, vous envoyez le bon de commande, vous le rédigez, vous envoyez le chèque en même temps, et une semaine après, vous avez vos CD-ROM, tous ceux que vous avez commandés. Et il y a également sur le site de Knupix d'excellents t-shirts avec un tux dessus magnifique qui vous permettront cet été d'arborer un superbe t-shirt. Et puis tout un tas de petites choses qui peuvent vous amuser ou vous permettre de personnaliser votre ordinateur aux couleurs de Linux, par exemple. Mais ça, c'est pour le folklore. Par contre, pour ce qui est des CD, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour installer une Linux. Et puis, on va dire encore pour ceux qui... Ah oui, je parlais de Knupix, pardon, j'ai fait une erreur d'interprétation. Je voulais parler d'Icarios pour ceux qui voulaient acheter. Et par contre, knupix.org pour télécharger un CD-ROM de Knupix qui vous permettra, en bootant sur le CD-ROM, d'avoir accès à une distribution presque totalement complète de Linux. C'est à peu près ça. Hein. Voilà. Merci, merci Elira, merci à tous, et puis nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur la micro-informatique. Bonne semaine à tous, bon week-end, et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir Elira.